Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bienvenue à On en jase, émission d'actualité du midi. Aujourd'hui, on va traiter beaucoup d'actualités locales dans la deuxième portion de la première heure parce que la ville de Québec se pète les bretelles avec le fait qu'on construit plein de logements. Mais est-ce qu'on construit vraiment selon nos besoins? Mathias Turcotte est allé sur le terrain pour nous et il nous a préparé ceci. Ça va être très intéressant à voir, les amis. Vous allez voir que c'est bien beau monter des buildings de condos à logement à 1800, 1900, 2000 piastres à logement, mais mon petit doigt me dit que ça ne répond pas aux besoins actuels de la ville de Québec avec la hausse du coût de la vie. Donc, on va jaser de tout ça. Bernard Drainville, nouveau super ministre de l'économie et de l'énergie, sera avec nous à 13h en studio. On va discuter avec lui, évidemment, de sa nomination, du fait que c'est Christine Fréchette qui a gagné la course à la chefferie. On va faire aussi un petit comparatif entre ce que Bernard voulait et ce que Christine voulait. Puis si Bernard pense que Christine va y en donner plus que juste un poste de super ministre, on va jouer un jeu quiz avec Bernard Drainville. Combien d'immigrants va-t-on accepter maintenant?
On va reprendre les critiques qu'il a données à Christine Fréchette.
Exactement. En gros. Exactement.
Puis on va lui demander si ces critiques-là tiennent toujours maintenant que c'est elle la chef de parti puis c'est elle la première ministre.
C'est, t'as tout compris, mon Mathias. Vous venez d'entendre Mathias Turcotte. Pascal CV est absent aujourd'hui. C'est Mathias qui est avec moi pour l'émission d'En Jase. Merci beaucoup d'être là, Mathias. C'est très, très, très apprécié. Et évidemment, on va revenir sur ce match canadien de Montréal. Ça va se passer après le caucus d'Emmanuel Latraverse. Victoire du Lightning de Tampa Bay, 3-2 en prolongation. Kirby Dach fusillé sur les médias sociaux. Je vais faire entendre ce que Martin Saint-Louis en pense et en a dit aujourd'hui. Et on va parler de ce match très physique. Un vrai match de série, la série maintenant 1-1. Ça se transporte à Montréal vendredi pour le troisième match de la série. On s'attendait à une série longue. Ça va être une série longue. On parle de tout ça avec Mathias et Alex là, tout à l'heure, sans l'ombre d'un doute. Mathias, hier, tu es en studio avec nous pour nous dire « Hey guys, préparez-vous parce que le boulevard Laurier va être à une voie. » Va falloir que vous preniez des chemins alternatifs comme le boulevard Champlain, le chemin Saint-Louis ou le boulevard Hochelaga. Mais là, il est midi 3 minutes et il y a du trafic.
Oui, ben justement, j'en profite pour le rappeler. Le boulevard Laurier, à hauteur du centre d'achat et du CHU, c'est une voie de circulation de chaque côté. Donc forcément, même si on n'est pas sur l'heure de pointe actuellement, on a un ralentissement des deux côtés à la fois. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs véhicules qui passent sur le boulevard Laurier, peu importe l'heure. Puis une voie, ben c'est pas suffisant, bien
Exactement.
Sûr.
Exactement. Revenez-vous de patience, syntonisez le boulevard 102.1. Sinon, également, vous pouvez nous écouter via la web radio blvd.fm. Vous pouvez nous écouter via l'application BLVD 102.1 et vous pouvez aussi vous abonner à notre page YouTube BLVD 102.1. N'oubliez pas 418-971-102.1 pour interagir avec nous.
Autre élément dans la circulation, j'en profite pour souligner 73 direction sud actuellement. Sur Laurentienne, en direction sud, là, c'est à hauteur de Jean-Talon. Présentement, il y a deux voies de circulation fermées sur trois en raison de travaux. C'est pour aujourd'hui seulement, ça se termine à 15h, mais forcément, ça crée un fort ralentissement dans le secteur également. En parlant de travaux, on a eu un point de presse ce matin du côté de la ville de Québec. On nous a précisé certains travaux qui vont avoir lieu au cours de l'été ou encore à l'automne dans le secteur de Saint-Roch, concernant le tramway. Mm-hmm. Encore une fois, des travaux tram-cité. Notamment, le secteur de la passerelle Adrien Pouillotte. Cet été, on va vouloir démolir cette passerelle-là. Ça va créer certains problèmes
Exactement.
De circulation.
Pour ceux qui se demandent quelle est sa passerelle, c'est la passerelle piétonne tout près de l'ancienne centrale de police, donc qui fait le lien entre le parc Victoria et le parc Saint-Roch.
Et Marc Desrivières, qui est directeur du transport et mobilité intelligente du côté de la ville de Québec, rappelait ce matin justement, en fait, précisait ce matin que Laurentienne devra être fermée tout simplement durant un moment cet été.
Au moment où la passerelle va faire l'objet d'une démolition, bien évidemment, il va y avoir fermeture de l'autoroute Laurentienne. Ce qu'on souhaite faire avec notre entrepreneur, c'est une fermeture de fin de semaine, un peu semblable à celle que le ministère a fait cette semaine sur l'autoroute Henri IV lors de la démolition du pont chemin Sainte-Foy.
Alors, il faut s'attendre à ce que la fin de semaine, il y ait des fins de semaine dans l'été que l'autoroute Laurentienne va être fermée justement à cette hauteur-là. certainement qu'on ne choisira pas les fins de semaine de festival du tout.
Ben, on ose espérer, on n'a pas encore plus de précision pour l'instant. À quel moment précis cet été ça va se passer? Je vous parle justement des travaux du tramway. On va apporter certaines modifications au réseau de transport de la capitale, donc de RTC, dès cet été justement. Le fameux réseau qu'on a changé, ouais, qu'on a remodelé au grand complet en vue des travaux tramcités, bien, on a remarqué certaines problématiques, notamment qu'on avait trop de passages d'autobus dans le secteur du Grand Théâtre. Donc, à partir de cet été, tous les parcours express, donc 230, 239, 270, 72, 73, 74, bon, ainsi de suite, qui descendent jusqu'à la colline parlementaire. En après-midi, ça ne va plus descendre jusqu'à la colline parlementaire. Ça va se terminer au terminus Parc Victoria.
D'accord.
Donc, le matin, les personnes qui ont l'habitude de prendre des express pour se rendre à la colline parlementaire pour travailler pourront toujours les prendre le matin. Mm-hmm. Toutefois, le soir, pour se rendre à l'express, il va falloir faire un transit avec la 801 ou la 805. Également, bonne nouvelle pour le CHUL, le parcours 12 qui se rapproche du CHUL, des arrêts du parcours 12.
Très bonne nouvelle.
Le parcours 12 qui va être mis à jour et des arrêts vont être directement à l'arrière du CHUL. Donc, on va avoir des arrêts collés littéralement au CHUL, ce qu'on n'a pas actuellement. C'est 200 mètres des arrêts les plus proches. Et je termine avec la sermentation du Conseil des ministres qui a eu lieu hier quand même. Ça fait beaucoup de bruit depuis maintenant quelques jours. Bon, ça fait deux jours qu'on sait pas mal la composition majoritaire, là. Sonia Lebel à l'éducation, Sonia Bélanger qui reste à la santé. Quand même préciser quelques noms, là. Bernard Drainville qui est super ministre de l'économie et de l'énergie, un poste qui, selon moi, va faire grandement son bonheur. François Bonnardel qui est de retour au sein du Conseil des ministres comme ministre de l'immigration. Et... une surprise, j'ai envie de dire, hier quand même, Yann Lafrenière qui a été nommé vice-premier ministre et qui est ministre du nouveau ministère de la Sécurité intérieure du Québec.
Voici ses commentaires sur nos ondes ce matin dans Marceau le matin, entrevue disponible sur blvd.fm.
Pour être bien honnête avec vous, absolument pas. Mais dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé ça. Ce matin, je me pince encore, écoute, c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai reçu ce rôle-là de la première ministre. Et on se met à la tâche dès ce matin. J'arrive pour rencontrer les équipes parce qu'on a beaucoup de choses à faire en peu de temps.
Le caucus. Ce qui se passe autour de nous. Ce qui influence nos vies. Les vrais enjeux expliqués simplement. Emmanuel Latraverse vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Emmanuel Latraverse qui a suivi très attentivement via une émission spéciale sur LCN cette nouvelle composition du Conseil des ministres. Elle est avec nous. Emmanuel, comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
Good. Alors, pas trop fastidieux comme exercice que d'attendre que Christine Fréchette nomme ces noms-là?
Ben oui, surtout qu'on finit par en connaître beaucoup, mais en même temps, c'est l'occasion de... Ce qui est long, c'est qu'il faut comme... C'est une histoire qui se construit, hein, ouais, au Conseil des ministres, puis c'est de trouver la façon de la raconter à notre public sur le pourquoi un tel est nommé là, quels enjeux ça soulève. Donc, pas mal exigeant là, mentalement de faire ça pendant 4 heures à peu près, en attendant que... Surtout, tout le monde attend le moment où elle va prendre la parole, tu sais.
Exactement.
Parce que c'est la façon dont elle va cadrer ses choix qui est peut-être le plus déterminant, je te dirais, pour la suite des choses.
Tu parles de ça, justement, et on se disait que, oui, c'est un conseil des ministres avec une certaine continuité parce qu'on n'a pas le temps de former des nouveaux ministres dans des postes-là. Mais est-ce que tu as senti qu'on n'était pas dans la continuité au niveau de son discours, justement?
Non, moi, je pense qu'il y a pas mal, il y a des ruptures importantes là, en termes de discours. Le plus important, je pense, et puis c'est incarné là, dans son choix au Conseil des ministres, en est un sur le ton.
Hein? Ouais, hein?
Elle le dit très clairement, là, nous sommes un gouvernement qui va mieux collaborer tout court. Nous serons un partenaire pour le fédéral, les Premières Nations, les PME, les régions, les organismes communautaires. Donc, c'est très clair là, que espèce de style de M. Legault qui s'articulait beaucoup et souvent dans la confrontation quand les choses devenaient moins faciles. C'est ce que j'appelais son poing sur la table sur la passerelle. Tu sais, genre, il arrêtait sur la passerelle, il mettait son poing sur la table, puis il faisait une déclaration choc. C'est clair que Mme Fréchette, de un, on le sait, c'est pas son style du tout.
En effet.
Mais elle a nommé des gens dans son conseil des ministres pour mettre ça en œuvre. Là. C'est pas pour rien qu'elle a nommé, je pense, quelqu'un comme Monsieur Bonnardel comme leader parce qu'on veut une approche plus conciliante. Il faut dire qu'elle n'a pas trop le temps. Là. Elle va avoir, une fois l'étude des crédits passée, il va lui rester 3 semaines pour essayer d'accomplir quelque chose. Donc, elle mise sur le fait d'amadouer l'opposition. Puis, elle n'a peut-être pas le choix là, en fin de règne comme ça. À ce chapitre-là, la nomination la plus notable, c'est certainement celle de Jean Boulay comme ministre des Relations canadiennes. Là.
Mm-hmm.
Depuis début 2022, là, donc tout au long du deuxième mandat, M. Legault avait vraiment misé sur ses ministres les plus nationalistes pour assumer ce rôle-là. Là. On l'a eu entre les mains de François Roberge, puis de Simon Jolin-Barrette. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est comme c'est la balance du pouvoir là, dans ce gouvernement-là qui tombe davantage du côté, je te dirais, des ministres et des ténors fédéralistes du gouvernement. Le but, c'est d'essayer d'avoir des ententes, je pense, plus facilement avec Ottawa parce qu'à Ottawa, M. Jean Boulay est vu comme étant plus parlable.
Oui, oui, oui.
En même temps, la ligne entre compromis et compromission, quand tu négocies avec le fédéral, elle est très fine, puis je pense que ça va être là un test de son gouvernement, puis de voir si l'inquiétude, je te dirais, en termes d'unité du parti en ce moment, c'est que la balance du pouvoir soit passée au rouge, entre guillemets.
Ouais, oui.
Est-ce que elle va être rééquilibrée dans sa façon de gouverner? Je pense que c'est une des grandes, grandes questions qui demeurent en suspens.
Ah, c'est clair. Par contre, tu sais, je réfléchis à voix haute avec toi, Emmanuel, puis je trouve que Jean Boulay, c'est un bon choix. C'est quelqu'un quand même qui a réussi à faire une réforme du domaine de la construction sans qu'il y ait de saccage et de grosses manifestations publiques. Fait que ça, c'est signe de quelqu'un qui est à l'écoute.
Oui, c'est signe de quelqu'un qui sait négocier, qui sait être tough sans mettre le feu, là. C'est un peu ça. Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle elle l'a nommé. Mais c'est sûr que dans les rangs plus nationalistes de la Coalition Avenir Québec, ça soulève des inquiétudes.
Ben oui, c'est clair.
Mais je pense que pour avoir une entente, tu sais, à un moment donné, tu peux pas tout avoir dans la vie, là. Elle a 4 mois d'ici les élections pour faire des gains, pour montrer que sa troisième voie, ça fonctionne, qu'elle n'est pas morte, que l'approche caquiste n'est pas systématiquement vouée à l'échec. Donc, tu nommes un négociateur qui est capable, je pense, à terme de s'entendre à Ottawa parce que tu n'as plus le luxe du temps, justement.
Non, en effet, puis il y a des ententes quand même, des montants d'argent assez importants à aller chercher, je pense notamment en transport en commun, des montants récurrents, puis aussi en habitation. Là. Donc, deux
ouais, ben, c'est
sujets.
Beaucoup, en infrastructure, en habitation. Puis on s'entend, c'est des ententes hyper complexes à négocier, là, parce qu'il y a toujours des critères, des clauses, des conditions de reddition de comptes fédérales, etc. Comment tu sais, tu prends le... C'est toujours comme essayer de mettre un carré dans un cercle, là, tu sais, de réussir à arrimer les priorités de Québec avec celles d'Ottawa sur ce genre de fonds financiers là. Et donc, pas mal certain, d'autant plus que M. Boulay les a faites, ces grandes réformes en termes de droit du travail. Là. Donc là, maintenant, ça va définitivement être ça, son mandat.
France-Hélène Duranceau, qui hérite également du ministère de la cybersécurité et de la transformation numérique, en plus de celui du Conseil du Trésor. Ça va-tu être trop pour une seule femme? Parce que ça me permet de faire le pont avec le fameux DSN, c'est-à-dire le dossier santé numérique. C'est déjà immense comme dossier, ça.
Bien, la réalité, c'est que avant M. Kerr, la cybersécurité était au Conseil du Trésor. Hein?
Ah, OK.
Et donc, c'est comme un retour à une ancienne normale. Le problème qu'il y a eu, c'est que M. Bélanger, qui était le détenteur du portefeuille après le décor de M. Kerr, mettons que de partir en guerre contre Santé Québec la semaine dernière en disant qu'il mettait les données personnelles et la santé des Québécois à risque avec le dossier santé numérique, c'était pas l'idée du siècle pour un gars qui espérait être nommé au Conseil des ministres. Non. Généralement, tu essayes de ne pas faire brûler la ferme, tu sais, avant le festival des récoltes, là. Alors, c'est un peu ça. Puis je pense qu'on veut trouver une façon plus cohérente de mettre en place ces projets-là. Mais dans les faits, de toute façon, le ministère de la cybersécurité n'avait qu'un rôle conseil. Hein. Il n'a pas un rôle décisionnel dans ces dossiers-là. Là.
Oui, on l'avait bien appris avec le scandale Saclic et la commission Galant. Là.
Ben oui, alors c'est pas ce changement de responsabilité qui va changer vraiment quelque chose sur la mise en œuvre là, de ce projet-là. L'idée, c'est de voir si Santé Québec est capable de le faire atterrir. Puis à un moment donné, c'est un peu tout le défi avec les réformes de structure qu'a fait ce gouvernement-là, c'est que dans les faits, maintenant, le DSN, comme on l'appelle, c'est plus le bébé d'un ministre, t'sais, c'est le bébé de Santé Québec, là. Puis c'est à Santé Québec de le mettre en œuvre, puis c'est à Santé Québec de l'opérationnaliser. T'sais. Santé Québec est supposée être une agence indépendante. Là. Puis c'est sûr que sous M. Dubé, il gardait les deux mains dedans, là, mais je pense qu'un des désirs de Mme Bélanger puis du gouvernement en général, c'est justement d'avoir profité de ce changement de ministre de la Santé pour réussir à laisser... Santé Québec assumer pleinement ses responsabilités avec les risques qui viennent avec, comme on le voit dans le dossier de Santé Québec, du dossier Santé numérique.
Santé numérique, en effet. Et à cet effet-là, les parlementaires sont quand même très nerveux, puis il faut dire que Gilles Bélanger n'a rien fait pour les rassurer. Je te laisse entendre Marois Risky sur nos ondes ce matin, entrevue également disponible sur le blvd.fm.
Maintenant, moi, je pense que le Conseil des ministres a été formé. On n'a pas de raison d'attendre jusqu'au 5 mai pour ouvrir le Parlement. Moi, je suis payée pour siéger. Alors, j'aimerais aller à Québec, j'aimerais poser des questions, puis je pense que plusieurs autres députés de différents partis d'opposition aimeraient aussi poser ces questions-là qui sont fort, fort légitimes, parce que si on attend au 5 mai, il va être un petit peu trop tard, le dossier santé numérique va être parti.
Marois Risky demandait ça vers 7h40. Aux alentours de 9h30 ce matin, Sonia Bélanger dit oui, il y aura des parlementaires qui pourront participer à une espèce de brefage technique, justement, du dossier santé numérique. On le rappelle, c'est un projet pilote qui va être implanté dans la région de Montréal et la région de la Mauricie. Est-ce que tu crois que ça va être suffisant pour rassurer tout le monde? Parce que j'entends des choses des deux côtés au niveau des professionnels de la santé. Autant il y en a qui disent « c'est bien trop compliqué, faire une prescription qui me prenait 20 secondes va me prendre 3 minutes », puis autant d'autres qui disent « bien écoutez, on n'a pas le choix, il faut passer par le numérique maintenant ».
Bien, c'est très… Tout changement technologique là, est un cauchemar et un casse-tête pour les gens qui travaillent avec. C'est toi, tu fais de la radio, là. Raconte-moi la première semaine où vous avez eu des nouvelles régies automatisées avec des nouveaux systèmes. C'était-tu vraiment le fun au bureau?
Ben non, c'est une semaine d'adaptation. Puis sais-tu quoi? Je pesais pas toujours ces bons boutons. Puis une chance, j'avais mon ami Mathias à côté de moi pour m'aider, qu'il connaissait mieux.
Mais non, mais alors, tu sais, je pense que les gens qui nous écoutent comprennent là, que malgré tous les efforts d'une entreprise, OK, pour essayer de faire une transition qui se fait bien, à un moment donné, quand tu changes les systèmes informatiques, même quand tu les changes bien, c'est angoissant, c'est stressant, puis ça va pas bien parce qu'il y a comme une mémoire, tu sais, moi je fais beaucoup de couture, là, puis il y a ce qu'ils appellent la mémoire musculaire, tu sais, que tes mains, tes trucs, après, c'est comme tricoter, là, tu sais.
Ouais.
Mais là, c'est comme si quand tu as des nouveaux systèmes informatiques, des nouvelles plateformes, il faut que tu réapprennes à tricoter. Alors, c'est sûr que c'est difficile. Et donc, l'anxiété, je pense, des gens dans le réseau de la santé est normale. Puis elle est d'autant plus normale que c'est pas un réseau où il y a un lien de confiance entre les gestionnaires et entre les gens sur le plancher. Mm-hmm. Je pense qu'on le voit dans les affrontements syndicaux, médecins, patentes à gaz. Alors, t'es pas dans un climat assez serein pour faire ce changement-là. En même temps, Santé Québec a déjà repoussé la mise en œuvre de ces projets pilotes-là parce qu'on n'était pas prêt. Donc, moi, je te dirais que, comme observatrice, le fait que Santé Québec a été capable de dire stop, ça va être le chaos, là, on reporte au 9 mai, c'est le genre de choses que la SAQ n'a pas fait dans le dossier Saclic. T'sais? Alors, ça, c'est rassurant. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne marchera pas? On verra, je veux dire, on peut pas, il n'y a personne qui est habilité, je pense, à vraiment se prononcer, si ce n'est qu'il faut qu'on fasse confiance. Le fait, moi, je te dirais qu'on a réduit le nombre de chirurgies, qu'on a réduit le nombre de lits dans les hôpitaux, mais à un moment donné, tu ne peux pas reprocher au gouvernement d'être cow-boy, puis en même temps reprocher au gouvernement de fermer des lits, tu sais, c'est l'un ou l'autre. tu fermes des lits, c'est parce que tu crées de la marge pour que les gens travaillent moins vite, pour qu'ils s'habituent, etc. Donc, vu de l'extérieur, le gouvernement, Santé Québec semble mettre en place les bonnes mesures pour que ça se fasse. Mais vu de l'extérieur, c'est la job de l'opposition de critiquer
De critiquer, d'être présent. Mais en même temps, avec, c'est sûr que ça va être difficile comme implantation, mais avec le fiasco, ça a cliqué, qui a fait énormément réagir dans la population. Si jamais le déploiement de ce projet pilote-là ne se passe pas bien, si c'est un échec, est-ce que la CAQ pourrait se relever de ça?
Non. Ben, de toute façon, la CAQ a déjà de la misère à se relever du dossier Saclique. Moi, je pense que ce qui complique énormément l'histoire du dossier Saclique, là, c'est l'absence de Santé Québec dans ce débat-là. On a des médecins qui sont pour, on a des médecins qui sont contre, on a des gestionnaires de CIUSSS qui nous expliquent, qui ont tout fait ce qu'il fallait pour réussir à y arriver, mais le grand Manitou, le responsable, la sécurité des données, de tout ça, c'est Santé Québec, tu sais. Puis ils sont où? On ne les entend pas.
En effet.
Et ça, moi, je pense que ça contribue à l'espèce de climat d'anxiété dans lequel on se retrouve avec ce projet-là. Donc, tant mieux si la ministre Bélanger est en train de préparer des séances d'information pour les députés. Je pense qu'il y a un geste de transparence là-dedans qu'on n'a pas vu de la part de Santé Québec et des autres acteurs, justement, puis peut-être que ça serait nécessaire de le faire.
Mais du côté de Santé Québec, on n'a pas nécessairement davantage à retarder le déploiement. Mais du côté du gouvernement caquiste, en voyant ça, puis en connaissant, en ayant conscience des risques que ce déploiement-là comporte, est-ce en sachant que ça pourrait être, entre guillemets, le clou dans le cercueil là, pour le gouvernement de la CAQ, est-ce qu'on pourrait avoir avantage à dire on va essayer de retarder le déploiement pour qu'il n'aille pas lieu avant les prochaines élections?
Bien, ça serait vu un peu comme une décision purement politique et partisane. Là. À un moment donné, tu n'arrêtes pas de gouverner parce qu'il y a des élections dans 4 mois. Je pense que le fait qu'au gouvernement, en général, on se sent assez à l'aise avec ça, c'est la preuve qu'on pense qu'on a ce qu'il faut pour que ça marche, là. C'est ça. Tu ne peux pas avoir une agence comme Santé Québec qui gère, puis un gouvernement qui prend des décisions pour des raisons partisanes. À un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a le bébé, il faut le faire atterrir, il faut le mener à terme. Puis c'est complètement ridicule là, qu'on soit encore à fonctionner avec du papier, des systèmes qui se parlent pas, etc. Il va falloir le faire, ce saut-là, à un moment donné. Là. Puis peu importe quand on va le faire, peu importe quel gouvernement va le faire, je te mets ma main au feu que ça va être anxiogène, puis qu'il va y avoir des gens qui vont être sur la place publique en train de dire que c'est fou, que t'as pas d'allure, qu'ils sont pas capables. Là.
Ça, c'est sûr, c'est ce qui arrive dans tout changement technologique, qu'il est bien ou non. Mais là, c'est sûr que la CAQ a eu un très mauvais résultat avec sa clique. Emmanuel, on termine le caucus, qui est un segment qu'on a du lundi au jeudi dans l'émission Nageurs sur Boulevard 101, avec les négociations entre le Canada et les États-Unis. Mark Carney, à son entrée à la Chambre des communes aujourd'hui, a mis son pied à terre. On l'écoute.
Ce n'est pas un cas d'avoir une demandeur, un autre supplicant. C'est pas le cas de tout. Like, it's not a case of the United States dictates the terms. We have the negotiation. We can come to a mutually successful outcome. It will take some time.
Ce n'est pas un cas où les États-Unis vont dicter la ligne de conduite, a-t-il dit. C'était mieux dit en anglais qu'en français. On apprenait aujourd'hui via les médias, via notamment Radio-Canada, que les États-Unis demanderaient des nouvelles concessions au Canada pour ouvrir ces négociations-là, notamment en ce qui a trait à l'alcool, à la SAC, donc de revoir les bouteilles américaines, et aussi sur des quotas laitiers. Tu penses quoi présentement de la stratégie de Mark Carney? Moi, je trouve que il est en période d'attente. Il se dit, quand, regardons ça, il y a des élections de mi-mandat qui s'en viennent, puis Donald Trump devrait manger une volée. Fait que je vais laisser glisser ça tranquillement, mais sûrement
vers cette pression-là. Je pense que tu veux laisser glisser ça tranquillement, parce qu'en attendant le dommage à nos industries de l'acier, de l'aluminium, du cuivre, etc.
En effet.
Là, maintenant, on a vu que la façon dont ces tarifs-là sont calculés, c'est un effet dévastateur sur des entreprises qui utilisent ces composantes-là. Regarde ce qui est arrivé à Bombardier Produits Récréatifs, le BPR, la semaine dernière. Moi, je vois un M. Carney qui ne se laisse pas intimider. Juste avant l'extrait que tu as fait jouer en français, il dit, écoutez, c'est toujours comme ça, les négos.
Oui.
On a un plan. Puis là, il dit, on a du temps, on a des forces, on a des options. Puis là, la journaliste dit, oui, mais est-ce que c'est acceptable que les États-Unis demandent un prix d'entrée à la négo? M. Carney, il regarde en riant, puis il dit, c'est des négos. Tout est acceptable.
Oui, oui, j'ai écouté aussi.
C'est comme s'il a vu neiger. Le Canada, ça fait un an que ça dure, hein? Puis c'est comme s'il a vu la tactique américaine. Puis il ne faut pas oublier, M. Carney dit toujours, quand il parle des États-Unis, il y a ce qu'ils disent en public, puis il y a ce qu'ils disent en privé.
En effet.
Nous, on s'énerve sur ce qui se dit en public. Lui, il voit ce qui se fait en privé. Comprends-tu? Puis la réalité, c'est que, regarde, alors, le Canada fait le calcul qu'il n'y a aucune raison de payer un prix d'entrée à la négo. OK? Parce que le prix d'entrée à la négo, de toute façon, on l'a déjà payé.
Ben, la taxe
on
sur le numérique.
En renonçant à nos contre-tarifs. On l'a payé en renonçant à la taxe sur les produits numériques. Donc, le prix d'entrée à la négo, le Canada l'a déjà payé, on ne va pas le payer une troisième fois. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 1er juillet, s'il n'y a pas d'entente, là, la Terre n'arrête pas de tourner. Là. L'accord de libre-échange n'est pas jeté aux poubelles. Là. Il y a deux options. Le 1er juillet, tu dis « tout baigne », puis là, ça roule pour un autre 16 ans. Ou tu dis « nous, on va renégocier », puis là, tu es obligé à chaque année d'avoir une échéance pour dire « OK, est-ce qu'on garde le deal ou on ne le garde pas? » Puis, tu as 10 ans pour en arriver à une entente.
Mm-hmm.
En quoi, si tu n'as pas d'entente, dans 10 ans, le deal est fini. Donc, pourquoi se ruer, là?
Ouais, c'est
pourquoi aller vite? Pourquoi se mettre à genoux? Parce que la seule chose que peut faire le président américain, de plus que ce qu'il fait maintenant, c'est d'annoncer qu'il va déchirer l'accord de libre-échange. Ça, il faut qu'il donne un préavis de 6 mois. M. Trump, en ce moment, n'est pas dans une position politique pour faire ça.
En effet.
Donc, c'est vrai que c'est un véritable jeu de roulette russe pour le Canada, parce qu'il faut encaisser le coût très élevé de résister pour nos entreprises. Mais en même temps, il y a cette crainte que si on met le doigt dans le tordeur, on ne s'en sortira pas. Donc, on mise sur le fait que M. Trump et M. Carney ont personnellement une bonne relation et que ça, ça va faire qu'à un moment donné, les choses vont atterrir et que le temps est du côté du Canada.
Je suis entièrement d'accord avec toi et je trouve très rafraîchissant le fait qu'il y a un an, Donald Trump aurait fait cette déclaration-là et on aurait eu des ministres qui se seraient précipités à Washington. Et là, c'est le calme plat. Je suis très heureux de voir qu'on est en contrôle.
C'est ça, exactement. Ce n'est pas le calme plat. Je pense que tout le monde travaille très fort.
Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, sur la sphère publique, là, c'est plus la panique.
Non, c'est qu'on ne se laissera pas barouetter puis intimider. C'est un peu, tu sais, les fameuses tasses là, de la reine d'Angleterre, là, « keep calm and carry on ».
Oui, exactement.
Ben, c'est un peu le message que veut envoyer M. Carney. Puis on en parlait hier, il s'est doté de ce comité à viseur, là, avec des syndicalistes, des leaders d'affaires, des avocats, des conservateurs. Ça, c'est comme sa chambre de résonance, sa caisse de résonance, pour aller voir si ça passe ce qu'il fait, puis pour se donner les moyens de ne pas perdre de vue ce qu'il faut faire en ayant des échos de différents secteurs de l'économie.
Exactement, étant bien positionné sur le terrain. Emmanuel Latraverse, c'est toujours un bonheur. On se parle demain, même heure, même poste.
Très bien, au revoir.
Salut, à demain. Emmanuel Latraverse qui est avec nous dans le caucus du lundi au jeudi à compter de midi. Antonine Iaccarini sera de retour, notamment dans la première semaine du mois de mai. Dans quelques instants, à Boulevard 102.1, on revient sur cette défaite crève-cœur du Canadien de Montréal, 3-2 en prolongation face au Lightning de Tampa Bay. La série est égale 1-1. Et côté local, ici à Québec, on avait en début de semaine une ville de Québec qui se pétait les bretelles, une administration Marchand qui disait « ça n'a jamais autant construit à Québec ». Mais est-ce qu'on construit vraiment selon nos besoins? Est-ce qu'on construit vraiment en fonction de notre capacité de payer ici les citoyens de Québec? Mathias Turcotte a creusé le tout et va nous rapporter des éléments très intéressants. C'est à On en jase sur Boulevard 102.
Choixtech.ca. Axia, la valeur d'un bon choix.
Votre toute nouvelle télévision surchauffe? Garantie. Votre voiture neuve a un problème électronique? Garantie. Votre tout nouveau congélateur ne congèle pas. Garanti. Quand vous avez un produit défectueux, vous pensez tout de suite à la garantie. Mais pour l'achat d'une habitation neuve, avez-vous vérifié si c'est garanti? Pour que votre habitation neuve soit garantie et inspectée, votre entrepreneur doit être accrédité par GCR comme l'exige la loi. Vérifiez avant de signer. Rendez-vous sur garantiegcr.com.
Vous avez déjà un Volkswagen dans votre cour? Parfait, parce que votre fidélité vaut de l'argent. Chez Volkswagen Saint-Nicolas, profitez de 1 % de rabais sur tous nos modèles en location. Oui, 1 % de moins sur votre prochain Volkswagen. Offrez-vous un nouveau look, plus de technologie et encore plus de plaisir à conduire tout en payant moins chaque mois. C'est le moment idéal pour changer. Passez nous voir dès aujourd'hui et découvrez à quel point être fidèle, ça paye. Volkswagen Saint-Nicolas, votre prochain Volkswagen vous attend.
Si vous avez besoin d'aide avec vos dettes, contactez Raymond Chabot, syndic autorisé en insolvabilité, pour une consultation gratuite. Rendez-vous sur raymondchabot.com.
Oh non!
Précisément midi 37, vous êtes à l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte pour ce midi en remplacement de Pascal CV. À la météo, 11 degrés. Passage nuageux pour aujourd'hui. C'est pas mal nuageux à l'heure actuelle. 8 degrés alternance soleil et nuages pour demain. 8 degrés également. Même principe, alternance soleil et nuages pour vendredi. Et à plus long terme, samedi, c'est 12 degrés ensoleillés. Dimanche, c'est 13 degrés avec quelques nuages. Donc, on a du beau temps. La pluie est arrêtée. Ça va aider pour les inondations. Bref, on est très heureux ici à l'émission On en jase. Merci d'être à l'écoute. On voit sur nos streamings que vous êtes de plus en plus à nous écouter. On est content. 418-971-1021 d'ailleurs pour interagir avec nous. Mathias, avant de passer au sport et de parler de cette défaite crève-cœur du Canadien de Montréal hier ou de cette belle victoire des Bruins de Boston sur les Sabres de Buffalo, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
Je commence juste en faisant un petit tour de circulation parce qu'on a quelques problématiques. Juste vous rappeler, boulevard Laurier, c'est une seule voie de circulation à la hauteur de place Laurier et du Chul, ce qui fait en sorte que présentement, dans les deux directions, il y a un léger ralentissement. Également, sur Henri IV, actuellement, laissez-moi regarder, on a comme un ralentissement. Là. Ça commence à hauteur de chemin Sainte-Foy. Puis c'est présentement, ça remonte présentement environ jusqu'à Charest en direction sud sur Henri IV. Si vous avez des informations concernant ce ralentissement-là, ça se passe au 418-971-1021 parce que ça semble plutôt inhabituel. En parlant de ralentissement inhabituel, Laurentienne en direction sud dans le secteur de Jean Talon, il y a présentement un ralentissement parce qu'il y a des travaux en place au cours de la journée. Il y a donc deux voies de circulation sur trois qui sont présentement fermé. Pour ce qui est des nouvelles, on commence par un petit tour de faits divers, dont un premier qui est une situation malheureuse qui s'est produite ce matin à Québec. C'est un jeune cycliste qui s'est fait heurter par une voiture ce matin dans le secteur de Sainte-Foy. Ça s'est déroulé entre la route de l'église et la rue Le Noblet vers 9h ce matin. C'est un adolescent de 15 ans qui s'est fait percuter. Présentement, les informations qu'on a, c'est que le cas est incertain. On ne sait pas encore si sa vie est en danger ou non, mais une chose est sûre, c'était un incident majeur. Il n'y a pas d'incidence criminelle selon les informations qu'on a actuellement. D'après certaines informations, ça se pourrait que l'enfant n'aurait pas respecté la priorité de passage et la signalisation, nous rapporte le Journal de Québec. L'automobiliste, de son côté, n'a pas été blessé lors de l'accident. Du côté du Soleil, on nous rapporte qu'un homme de 26 ans a été accusé aujourd'hui pour activité terroriste. C'est Jeffrey Roussel qui a comparu au palais de justice de Québec en avant-midi. Il est associé notamment au groupe terroriste Montanil 984-1984 et au groupe 764, qui est un groupe d'extrémistes violents qui utilise les médias sociaux et les plateformes de jeux vidéo pour recruter et radicaliser les individus. Donc, on déduit probablement qu'il cible des personnes plus jeunes.
Exactement,
également.
Plus vulnérables, embarqués dans son type, justement, de pattern, là, je vais prendre cette expression.
Donc, Jeffrey Roussel, qui aurait commis des crimes entre février et avril dernier, il demeure présentement détenu parce que le procureur général du Canada s'est opposé à sa remise en liberté. Il reviendra devant la cour lundi. On devrait avoir plus de détails à ce moment-là. Ce matin, point de presse du côté de la ville de Québec. On nous a annoncé des travaux. Un peu plus de précision concernant des travaux reliés au tramway, cette fois-ci dans le secteur de Saint-Roch. que ça se passe, notamment la démolition de la passerelle Adrien Pouliot, justement à travers piétonne au coin Laurentienne et des embarcations dans la ville de Québec. La démolition de la passerelle qui aura lieu cet été, Marc Desrivières, directeur du transport et mobilité intelligente pour la ville de Québec, précisait d'ailleurs tout à l'heure en point de presse que Laurentienne devra être fermée à un moment pour permettre la démolition de la passerelle.
Au moment où la passerelle va faire l'objet d'une démolition, bien évidemment, il va y avoir fermeture de l'autoroute Laurentienne. Ce qu'on souhaite faire avec notre entrepreneur, c'est une fermeture de fin de semaine, un peu semblable à celle que le ministère a fait cette semaine sur l'autoroute Henri IV lors de la démolition du pont chemin Sainte-Foy.
Alors, évidemment, la passerelle Adrien Pouliot est celle qui relie le parc Victoria au parc Saint-Roch, donc qui passait en face là, de l'ancienne centrale de police de Québec. J'ose imaginer qu'on va choisir des fins de semaine moins achalandées que celles du festival d'été.
Ce qui semblerait logique, hein, sinon ce serait... T'imagines-tu ça tombe durant le festival d'été?
Non,
ce serait un scandale pour vrai. Fait que j'imagine du côté de la ville, on va se prévoir
c'est
en conséquence. Je termine avec des parcours du RTC qui changeront parce qu'on sait le réseau de transport de la capitale a remodé complètement ses parcours en ajoutant la 805 depuis le 21 mars en prévision des travaux Tramcité. Là, on a annoncé qu'on allait modifier certains parcours parce qu'on s'est rendu compte de certaines difficultés, notamment dans le secteur du Grand Théâtre. On se rendait compte qu'il y avait trop d'autobus qui circulaient dans le secteur. Donc, on va apporter des modifications à partir de cet été. C'est les parcours express qui, en après-midi, donc les parcours express 230, 239, 270, ainsi de suite, là, les parcours express qui se rendaient présentement à la colline parlementaire arrêteront au parc Victoria. Donc, en matinée, ce sera possible de prendre des express, se rendre directement à la colline parlementaire. À partir de l'après-midi, toutefois, va falloir faire transit, prendre la 801, 805 à partir de la colline parlementaire et par la suite faire le transfert pour prendre les express à Parc Victoria. Également, parcours 12 qui va se rapprocher du CHUD à partir du 20 juin prochain. Donc, présentement, les arrêts les plus proches pour le parcours 12 qu'on a créé justement pour desservir le CHUD étaient à 200 mètres environ dans le secteur de Laurier. L'autre parcours 12 maintenant passe directement en arrière du CHUD, donc dessert directement le CHUD.
Excellente nouvelle. C'est la preuve que le RTC a écouté justement les gens qui empruntent le transport en commun, les usagers. Alors, très bon geste de la part du RTC. Hier soir à Tampa Bay, en prolongation.
Est-ce qu'on pourra limiter les dégâts? Mozart va avancer. Mozart, let's go! JJ Mozart! Et l'erreur de Doc donne le but gagnant en prolongation du Lightning.
JJ Mozart et l'erreur de Doc donnent le but gagnant en prolongation. Kirby Doc en prend pour son rhume depuis hier ce but gagnant du Lightning de Tampa Bay parce qu'il a créé un dégagement refusé alors qu'il aurait pu donner deux petits coups de patin de plus et éviter ce dégagement refusé. Alex Laramé, t'en penses quoi de cette polémique autour de Kirby Doc?
Ben moi, honnêtement, là, je veux pas tomber... on n'ira pas dans les insultes personnelles. Là, tout ça, ça a pas d'allure.
Oui, puis on va dire exactement. Là, sur les médias sociaux, là, s'il vous plaît, un petit peu plus de classe, les amis.
Mais tu sais, si on commente sa performance de joueur de hockey, là, c'était atroce. Je veux dire, le match d'hier, il a été absent tout le match. En fait, c'est ça que je disais à mes amis hier. Pour moi, Kirby Doc, c'est comme un commis au Canadian Tire. Un, tu le vois pas. Quand tu le vois, il est pas là pour t'aider. C'est pas son département. Le jeu physique, c'est pas son département. En attaque, il produit pas. Puis on a vu que défensivement, c'est pas son département non plus. Il a fait une erreur qui a coûté au final, c'est plate à dire, mais qui a coûté la victoire aux Canadiens. Moi, Kirby Doc, j'étais pas d'accord de le mettre dans formation pour le premier match. J'aurais pris Gallagher, Veleno. J'aurais pris Samuel Blais avant Kirby Doc. Puis là, il nous coûte un match. Malheureusement, c'est plate à dire, mais il doit sortir de la formation.
Ah, c'est comme un commis au Canadian Tire. Celle-là, je le retiens, Alex Laramé. Elle est savoureuse. On écoute Martin Saint-Louis ce matin en point de presse à propos de son joueur, Kirby Doc.
Tu me poses juste cette question-là parce que c'est lui qui a fait le icing hier?
Non, justement, parce qu'il y a eu beaucoup de spotlight sur ce jeu-là. Moi, je veux qu'on...
Ah ouais, c'est ça. C'est un jeu. C'est un jeu. OK, moi, je trouve que Doc, il a mis de la physicalité. Puis je vais regarder le match, comme je dis. Mais ses intentions, pour moi, les deux dernières semaines, il joue avec beaucoup de combativité.
J'adore le mot physicalité, mais mis à part ceci, Mathias, moi, Dak, je l'enlève de l'alignement. Là. C'est Joe Veleno qui arrive. Veleno peut tuer les punitions, est plus physique, peut gagner des mises en jeu. C'est lui qui prend la place de Dak, là, sans l'ombre d'un doute à Montréal, surtout qu'il va être craqué de jouer devant les siens.
Ben pour moi, c'est la décision évidente, puis on voit qu'on a une série excessivement physique. On l'a vu hier, ça brassait en maudit. Veleno, c'est un des joueurs les plus physiques du Canadien cette saison. Je veux dire, il peut apporter ça. Il a un bon jeu défensif. En gros, il apporte plus que Dak directement là avec son jeu physique, avec son jeu défensif. Il en apporte plus que Dak, puis il en apporte pas nécessairement moins offensivement pour autant. Martin Saint-Louis, en défendant Dak, fait son travail de coach.
C'est clair. Enfin,
pour moi, c'est indéniable.
Il peut pas aller le mettre même sa place publique. Là.
Puis tu vois, je suis pas aussi dur envers Kirby Dak que, par exemple, Alex l'a été.
Le commis du Canadien.
Non, mais pour moi, j'ai pas tant détesté son match que ça hier, avant son erreur en prolongation. Je dis pas que c'était un grand match. Ce que je dis, c'est que si on avait perdu en prolongation puis que ça n'avait pas été son erreur, qu'on l'ait gardé dans l'alignement, pour moi, ça n'aurait pas été la bonne décision, mais ça aurait été correct. Mais là, avec son erreur en fin de match qui nous coûte la partie, il nous apporte présentement absolument rien depuis le début de la série. Pour moi, il y a une seule décision logique qui doit se prendre, puis c'est de le remplacer dans l'alignement.
Alex Laramie, est-ce que cette erreur de Kirby Dak passe au silence le travail nébuleux du premier trio à 5 contre 5 hier, c'est-à-dire Suzuki, Caulfield et Slafkovský, qui ont été dominés par le trio Eagle, Chiarelli et Genzel?
Ben, tu sais, on en parlait après le premier match et c'est quelque chose qui s'est poursuivi dans le deuxième. C'est plate à dire, mais pour l'instant, Cole Caulfield, on l'a pas vu dans cette série-là. C'est pas le marqueur de 50 buts. Plusieurs séquences, moi, je regardais ça. Il semblait s'avancer vers le centre de la glace, cherchait des passes au lieu de tirer. Je sais pas si mentalement, là, il est pas en confiance ou je sais pas, mais on dirait que c'est pas le Cole qu'on a connu, qui avait des matchs à des fois 7-8 lancés, puis qu'on le voyait. Visiblement, ouais, le match-up là, avec le trio de Cirelli, ça va pas super bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on va à Montréal, fait qu'on aura le dernier changement. Je suis certain que Martin Saint-Louis va tout faire pour éviter que le trio Suzuki soit contre celui de Cirelli, mais ça va en prendre plus là, du premier trio, parce que sinon, on passera pas à travers Tampa Bay, là, impossible.
Les Bruins l'ont emporté hier 4-2 sur les Sabres de Buffalo. Je te dirais que les Sabres sont dans le trouble. Ils ont gagné un match, mais de peine et de misère en fin de troisième période. Les Bruins jouent une meilleure série.
Ben, moi, j'ai pris les Bruins, puis je le disais après le premier match, là, je comptais pas pour vaincu. Beaucoup d'expérience hein, du côté des Bruins. C'est ça qu'ils ont pas là, du côté des Sabres. On a une bonne jeune équipe, mais le manque d'expérience. Écoutez, on a marqué 2 buts en fin de match, ça voulait plus dire grand-chose. Là, on s'en retourne à Boston. Fait que c'est sûr que les Bruins, eux, ont fait leur job. Et Swayman devant le filet, moi, j'ai toujours pensé que ça pourrait être un facteur déterminant dans cette série-là. Puis, en tout cas, à date, ils se débrouillent quand même.
Ça n'est un jusqu'à présent. Dans l'Ouest, il y a eu victoire du Mammouth de Utah 3-2 sur les Golden Knights. Une première victoire de concession, de l'histoire de la concession en série à Utah, évidemment. Et l'Avalanche du Colorado qui l'a emporté 2-1 en prolongation contre les Kings. Je veux juste vous entendre, messieurs, il y a 3 matchs ce soir. Penguins, Flyers, Stars, Wild et Ducks, Oilers. Je veux vous entendre sur Penguins, Flyers. Est-ce que les Penguins peuvent se sortir du trouble ou les Flyers vont être gonflés à bloc devant leurs partisans? Ils vont prendre les devants 3-0 dans la série. Mathias?
Ben pour moi, la question, c'est quelle équipe des Penguins qu'on va avoir, celle de cette saison qui ont su surprendre tout le monde puis être une excellente équipe dans la Ligue nationale, ou celle qu'on voit depuis 2 matchs de série où c'est excessivement difficile de produire de l'offensive, peu importe la façon. Mais une chose est sûre, s'ils veulent se réveiller, c'est ce soir que ça se passe, sinon ça va être trop tard.
Moi, je pense, Alex, que les Flyers vont prendre les devants 3-0 dans cette série. Là, présentement, les Flyers sont dominants au cercle de mise au jeu, dominent les Penguins physiquement. Je vois pas comment les Penguins vont revenir.
Ouais, c'est plate à dire, mais la version des Penguins qu'on voit, c'est pas celle qui glisse le plus loin. Là. Moi aussi, je pense que Philadelphie, là, première game à domicile, ça, les jeunes Flyers vont avoir le feu aux fesses. Là, ça va jouer sur un temps. Puis selon moi, ça va aller trop vite pour les Penguins. Là. Moi aussi, je vois une victoire des Flyers.
Je prends Penguins. J'ai espoir aux vétérans des Penguins. Crosby, Malkin va rebondir. Puis victoire des Penguins ce
Excellent.
Soir.
Moi, je prends surtout Connor McDavid avec 5 points. Je pense qu'un match de 0 points pour McDavid, ça fera pas contre les Ducks. Alex, on se parle demain?
Certainement.
Salut Alex, merci beaucoup. Alex Laramie, chroniqueur sportif et journaliste au 99.5 Montréal. Il va être avec nous pour la durée totale des séries éliminatoires à chaque jour parce que c'est des bonnes séries dans la Ligue nationale. Les Canadiens, Tampa Bay, c'est vraiment du hockey intéressant à suivre.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
On vous en glissait un mot tout à l'heure. On vous disait qu'en termes de logement au niveau de la ville de Québec, on s'est pété les bretelles avec des statistiques à n'en plus finir en disant on a construit des logements comme on n'a jamais construit. On se souvient, Bruno Marchand, qui a promis 40 000 nouveaux logements d'ici 2040. Cependant, moi, quand j'ai lu ça, j'ai jasé avec Mathias Turcotte, notre journaliste sur le terrain, que vous pouvez rejoindre à citoyencommercialblvd.fm, et je lui ai dit « Coudonc, Mathias, on construit-tu selon nos besoins? Les gens ont de moins en moins d'argent avec l'augmentation du coût de la vie. Puis c'est des grosses tours à condos avec des penthouses puis des logements super chers que je vois se construire. » Et Mathias, t'es allé valider le tout.
Bien, c'est intéressant parce que ça, c'est un questionnement qu'on a depuis maintenant plusieurs semaines, même plusieurs mois, parce qu'on voit un taux d'inoccupation qui monte. Pourtant, les logements ne sont pas plus abordables. Pour autant, les logements restent excessivement chers. Les logements restent trop chers, même pour ce que les personnes ont besoin. Donc là, le questionnement qui est amené, c'est oui, on a plus de logements qui est construit du côté de la ville de Québec, notamment là, par rapport... Si on prend le premier trimestre, donc les trois premiers mois de 2026, puis on les compare aux trois premiers mois de 2025. Du côté de la ville de Québec, c'est une augmentation de 102 % des mises en chantier.
Ce qui est très bien.
Ce qui est excellent.
Oui.
Le problème étant, c'est que les mises en chantier, présentement, si on prend le temps de les décortiquer, on va prendre la région métropolitaine de Québec pour le faire, OK? C'est 1740 mises en chantier du côté de la région métropolitaine de Québec pour les trois premiers mois. 1740, ce qui est quand même bien. Sauf que là-dedans, une grosse majorité, c'est des logements locatifs. On a seulement 137 maisons individuelles, beaucoup de logements locatifs et seulement 30 logements sociaux.
Donc,
seulement 30 sur 1740. C'est
seulement
2%.
30 logements sociaux. Fait que déjà là, on répond à la question au niveau de l'abordabilité parce qu'il n'y a presque pas de logements sociaux. Presque pas de logement abordable, puis on donne pas accès à la propriété non plus aux jeunes familles dans la région de Québec avec seulement 137 maisons de construit comparativement à la tonne de logements locatifs.
Ben c'est ça. Fait que donc, sur 1740, c'est 8% de maisons, 2% de logements sociaux. Ce qui nous laisse, bon, il y a un petit pourcentage de duplex également triplex, mais sinon, la grosse majorité du reste, c'est des logements locatifs. Puis des logements locatifs qui sont chers. Présentement, du côté de la ville de Québec, le taux d'inoccupation pour les logements locatifs neufs, donc dans les trois premières qui sont construits dans les trois dernières années, c'est 5 %. Ce qui veut dire qu'on n'en manque pas en ce moment des logements neufs. Pourtant, c'est ça qu'on construit.
Mais c'est ça, exactement, parce qu'à 5 %, c'est un taux d'inoccupation que si on avait ça pour la ville en entier, on se poserait des questions.
Ben, exactement.
Ça veut dire qu'on serait en récession.
Puis j'ai parlé à Maëlle Boulet-Prézot, qui est économiste chez Desjardins, spécialisée justement dans le logement. Puis elle, ce qui m'expliquait, c'est qu'effectivement, lorsqu'on regarde ça froidement comme ça, on peut se dire, ouais, on construit, mais on répond pas vraiment aux besoins du marché actuellement, aux besoins de la population. Puis, elle m'a expliqué que c'était normal parce que ça prenait plusieurs années avant qu'un projet de construction de logement soit mis en place. Je vous laisse entendre.
Puis souvent, c'est des gros projets locatifs qui sont prévus quand même longtemps d'avance. On parle de... En fait, la SCHL disait 6 à 15 mois après l'obtention du permis de construire avant que ça devienne une mise en chantier. Puis on sait que au travers des branches, on entend que l'obtention du permis de construire en tant que tel aussi peut prendre un certain délai. Donc, c'est normal que les mises en chantier qu'on voit en ce moment sont encore fortement dans le marché locatif, puisque les taux d'occupation sont encore très bas il y a à peine un an.
Donc, on n'est pas capable de se projeter dans l'avenir. C'est ce que je comprends. On évalue mal le marché futur.
Bien, c'est ça. Puis ça, c'est pas de la faute de la ville, c'est pas de la faute du gouvernement. C'est qu'un promoteur qui va faire un projet veut que son projet soit rentable. Mm-hmm. Donc, lui, il regarde, il y a un an et demi, il s'est dit, hey, il y a de la place pour des logements locatifs neufs. Je vais me construire du logement locatif neuf. Mais lorsque son logement locatif neuf sera prêt, donc, par exemple, ceux qui sont mis en chantier présentement seront prêts dans un an et demi, deux ans, ben, le taux d'inoccupation pour les logements locatifs neufs va probablement être encore plus élevé parce qu'on n'a plus tant de demandes pour cette branche-là du marché.
Exactement.
Donc là, on va s'ajuster. Puis comme j'en ai discuté avec Mme Boulet-Prézot, on va construire probablement plus des duplex, des triplex au cours des prochaines années parce que la demande semble se diriger vers ça. Mais au moment de construire, au moment d'enclencher le processus pour le promoteur, on veut faire du profit, on regarde ce qui nous permettrait de faire le plus de profit. Puis il y a de cela un an et demi, ben, la réponse simple à cette question-là, c'était construire une tour de logement locatif neuf, on va en faire du profit comme ça.
Dis-moi là, Mathias, 137 maisons, c'est très peu. Est-ce que c'est parce qu'on a peur de l'étalement urbain et qu'on n'a pas nécessairement les infrastructures nécessaires pour construire davantage de nouvelles maisons?
Pas exactement, je dirais. J'ai parlé à Jean Dubé, qui est économiste et professeur en développement régional. Puis ça, c'est intéressant parce que le prix des logements augmente excessivement. En banlieue de Québec, même en banlieue éloignée de Québec. On regarde MRC, Côte-de-Beaupré, par exemple. Au cours de la dernière année, c'est autour de 20 % d'augmentation en un an pour une maison. C'est énorme, là, 20 % d'augmentation en un an. Donc, la question se pose, est-ce que lorsqu'on voit ces augmentations-là pour les maisons, est-ce qu'on devrait construire plus? Est-ce que ça témoigne qu'on ne construit pas assez? Pour Jean Dubé, pas nécessairement, mais une chose est sûre, c'est que ça témoigne de l'étalement urbain qui continue.
En fait, c'est pas nécessairement ça veut dire qu'il faut en construire plus. Je pense que ce que ça veut dire essentiellement, c'est que ça souligne, c'est le fameux principe qu'on appelle en anglais « drive until you qualify ». Donc, je veux être propriétaire de maison neuve la façon de me payer cette maison-là, en fait, c'est d'aller un peu plus loin.
Oui, en effet, mais somme toute, même un peu plus loin, c'est rendu très cher. Là, t'en parlais avec Côte-de-Beaupré.
C'est rendu très cher, puis ça, c'est intéressant parce que le réflexe rapide de dire « Hey, les maisons augmentent », il y a beaucoup d'acheteurs qui cherchent encore des maisons. Là. En 2024, je vous ai sorti une statistique. Là. En 2024, pour les jeunes adultes de 18 à 34 ans, on parlait de 45 % d'entre eux qui voulaient acheter une nouvelle propriété au cours des 5 prochaines années. Sur ça, 87 % voulaient une maison unifamiliale. Donc, la grosse majorité des nouveaux propriétaires veulent se diriger encore vers la maison
unifamiliale.
Vers la
maison unifamiliale, mais on construit plein de logements puis de condos, ben, et surtout locatifs.
Ben oui, parce que... Fait
qu'à un moment donné, il va y avoir un déséquilibre, c'est clair.
Ben, j'ai envie de dire qu'on a déjà un déséquilibre, puis c'est pour ça que que même éloigné, ça s'en vient cher. Puis en même temps, comment arranger, c'est ça? Parce que est-ce que construire massivement, c'est une solution? Les terrains coûtent plus cher, les coûts de construction coûtent plus cher. Donc, comme Jean Dubé me disait, ben c'est pas nécessairement une solution.
Ce serait un peu surprenant, en fait, que le prix baisse, dans le sens où, normalement, la construction neuve, une des grandes variables pour expliquer le prix, c'est le coût de la construction. Puis, à moins que les salaires dans le secteur de la construction baissent, puis le coût des matériaux baisse, avec une population qui est en croissance et donc une augmentation pour la demande de terrain pour une offre qui est plutôt fixe, je vois difficilement comment ce phénomène-là pourrait mener à une baisse du prix des maisons.
Aïe, 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 c'est vraiment désespérant parce que tu nous racontes, Mathias, ben, parce que tout ne fait qu'augmenter en termes de logement. Normalement, le logement est censé être 30 % du budget d'un individu, puis là, on frappe des fois le 60-70 % tellement c'est élevé. Dis-moi donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a au moins éclairé un peu, donné un peu de lumière en disant « Ouais, il y aurait moyen de diminuer les coûts? »
Ben c'est ça. Là, parce qu'on regarde ça froidement, puis on se dit « Même si on construit des maisons vont coûter cher, des terrains coûtent cher, la construction, les matériaux coûtent cher, la main-d'œuvre coûte cher, tout coûte cher dans une construction. Donc, même si on en construit, ben ça va pas être désabordable de toute façon, des maisons. Donc, la seule manière réelle de stabiliser le prix des maisons, ce serait de trouver des nouvelles méthodes de construction, du préfabriqué, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va se développer pour nous permettre de construire des maisons plus efficacement, à des coûts moindres? Peut-être, mais ça semble la seule porte d'espoir pour se dire « Hey, les maisons vont peut-être pouvoir... » Le prix des maisons va pouvoir peut-être se stabiliser parce que, pour l'instant, une maison unifamiliale, ça continue à monter encore.
Exactement. Fait que malheureusement, on retient plusieurs choses de ton dossier, Mathias, c'est que le prix des maisons, le prix des logements vont continuer à augmenter, puis très, très, très malheureusement, on construit encore énormément de logements locatifs qui coûtent très cher par mois, du 1 700 à 2 200 pour des 4,5, 5,5, alors que les gens n'ont pas les moyens à l'heure actuelle.
Puis il y a deux facettes à la crise du logement, parce qu'on parlait du taux d'inoccupation qui était excessivement bas il y a de cela peut-être un an, oui. deux ans, c'était en bas du 1%.
Oh oui, c'était 0,8.
C'est ridicule, ça, c'est ridicule.
Ah oh oui, ça, c'est une vraie crise. Là.
Tu peux pas avoir un marché du logement qui est efficace avec un taux d'inoccupation aussi bas. Là, le taux d'inoccupation est à 2,2%, ce qui est un taux raisonnable, on oui. va dire comme ça. Sauf que même si ton taux a augmenté, si tes logements restent peu abordables, ben, tu restes encore dans ce qu'on appelle une crise parce que tes logements qui sont disponibles, ben, c'est des logements hors de prix.
Exactement. Fait qu'on va rester dans la même crise sociale qu'on est, c'est-à-dire l'itinérance, la pauvreté puis les banques alimentaires qui vont déborder. Même si on arrive à du 3,5 de taux d'inoccupation en raison du coût trop élevé des loyers. Vous, 418-971-1021, avez-vous des difficultés à vous loger? Est-ce que vous payez plus cher que ce que vous pensiez? Écrivez-nous durant la pause et ça va nous faire plaisir de lire plusieurs textos au retour de la pause. Et dans quelques instants, on accueille également le nouveau super ministre de l'économie et de l'énergie au Québec, Bernard Drainville, vient nous voir en studio.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
13h09, vous êtes à l'antenne de l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. À l'instant même... On lui avait demandé de venir, Mathias, le lundi après, justement, la campagne à la chefferie. Il avait dit « Hey, t'as-tu mangé de la tire d'érable? Ça a neige en fin de semaine, toi, mon Jean-François, pour être craqué de même puis m'inviter un lundi? » Mais finalement, il est là le mercredi suivant avec, pas le poste de premier ministre, mais celui de super ministre de l'économie et de l'énergie.
Pas un poste gênant non plus.
Ben non, c'est ça. C'est un... Comment je dirais bien ça? C'est un beau cadeau. Ben pas cadeau. C'est... Comment on dit ça? On dit, tu sais, quand on a quelque chose qui compense bien, là.
Ben on peut lui demander directement comment vous qualifiez ouais. ça, vous, Monsieur Drainville.
Ben d'abord, bonjour.
Bonjour.
ben je dirais que c'est un beau défi.
Un beau défi. Ah, ben
c'est
oui.
C'est un très beau défi.
C'est un très beau défi, en effet, celui de l'énergie et de l'économie.
Et de la stratégie maritime.
Et de la stratégie maritime, ben en oui. effet. Ben oui, parce que Davy, vous l'aviez ben oui. vraiment à cœur. La déception est tombée de ne pas avoir gagné la chefferie de la CAQ?
Ben, t'as pas le choix, là, de m'emmener de regarder en avant, là.
Mm-hmm. Ça vous a fait mal?
Ben, c'est sûr. Sur le coup, tu sais, tu te donnes pendant presque 3 mois. Puis, je veux dire, honnêtement, on a gardé espoir jusqu'à la fin. Mais à un moment donné, tu sais, quand tu as tout donné, puis on a vraiment tout donné, Jean-François, mm-hmm. c'est plus facile d'accepter le résultat quand il est décevant parce que tu n'as pas de regrets, comprends-tu? Puis moi, ouais. j'ai pas de regrets. On a travaillé, mon gars, on a mis de l'avant des bonnes idées. Puis on a fait, à la fin, quand même un bon score. Tu sais, bon, c'est pas assez pour gagner, mais on a quand même réussi, je pense, à imposer nos idées dans la discussion, dans le débat. Fait que ça, on est content de ça. Maintenant, une fois que la course est finie, faut que tu te rappelles ça pourquoi tu es là. T'sais. Puis la raison pour laquelle je fais de la politique, là, puis je m'excuse d'avance parce qu'il y en a qui trouvent ça bien quétaine quand je dis ça, là. Mais je le fais sincèrement pour redonner puis pour améliorer notre société puis contribuer au Québec puis à Lévis en particulier parce que c'est mon comté puis je suis fier d'être le député de Lévis. Fait que tu veux apporter ta contribution à ta société puis c'est pas dans la chicane puis dans la bisbille que tu vas le faire. Fait que ouais. tu te rallies, tu travailles avec la première ministre qui a gagné puis tu fais équipe avec elle pour essayer de relever le parti puis de redonner confiance aux Québécois.
Comment vous allez faire pour faire équipe justement avec Christine Fréchette que vous aviez qualifiée vous-même de beige? Vous n'êtes pas beige, vous, là, vous êtes coloreux.
J'ai pas dit ça tout à
l'heure. Vous l'avez sous-entendu fortement.
Oh là là, monsieur Drainville. Pas... Voulez-vous que je ressorte des cotes?
C'est pas nécessaire.
Ah non, c'est pas nécessaire, c'est ça que je pensais. Je suis pas menteur, j'ai juste de la mémoire.
Non, mais on est dans une course... Tu sais, il y a eu des échanges assez corsés de part et d'autre, je vous le rappelle.
Ah, ça, je suis d'accord
sur
avec
le,
vous.
Sur le troisième lien, on a eu un échange ouais. corsé, n'est-ce pas?
Ben oui.
Bon.
Mais justement, là, on fait quoi avec le troisième lien? Vous avez dit dans la campagne, Christine Fréchette est en train d'enterrer le troisième lien, puis là, vous êtes main dans la main avec elle. Elle l'a-tu déterré, coudonc?
Ben, on s'est assis, puis on a eu une très bonne discussion.
OK. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, très bonne
discussion? Ben, ça veut dire qu'elle m'a convaincu qu'elle veut le faire.
À l'Est?
Oui.
Puis là, vous êtes redevenu pour le troisième lien à l'Est.
Ben moi, j'ai toujours été pour le troisième lien. Commençons ouais. par ça.
Mais là, vous étiez dans le corridor central.
Voilà. Mais là, c'est elle qui a gagné la course.
OK.
Et puis, elle veut aller de l'avant avec un appel d'intérêt international pour un corridor à l'est. Fait qu'on va aller de l'avant avec un appel d'intérêt international pour le corridor à l'est.
Puis les gens vont-tu vous croire en campagne électorale que vous allez le faire? Parce que là, ça va être la troisième campagne que la CAQ le promet.
Oui.
Comme je t'ai soufflé.
Ben, écoute, on va laisser les gens se faire une tête quand ils verront les résultats de l'appel d'intérêt. Maintenant, tu sais, y a les députés là, de la région, de la Capitale-Nationale puis de Chaudière-Appalaches, dont je suis, là, nous autres, on n'a jamais arrêté d'y croire, Jean-François. On y a toujours cru.
Ah, je sais, je l'ai vu, j'étais sur le terrain.
On y a toujours cru. OK?
Je vous ai vu que ça avait fait mal aussi quand Geneviève Guilbeault avait abandonné à l'Est. Là, vos conversations avec Marie-Josée Morancy puis Gilles Laulier. Ouf! Ça faisait mal.
Vous êtes au courant de ça, vous?
Ben là, j'ai tout vu ça. Moi, j'étais dans la salle de presse, je suis à côté, j'ai tiré le coup.
Tu me.
Ben non! Je te niaise pas! Je vous niaise pas! Hey, je vous ai tutoyé.
Ben oui,
ça va d'allure.
Moi aussi. Bref, oui, j'ai eu de la peine, puis il y en a qui s'en sont moqués. Mais honnêtement, moi, j'avais donné ma parole. Puis quand tu donnes ta parole, ça, pour moi, ça a une valeur, ça. Je sais, encore là, il y a un paquet de monde dans le char qui nous écoute et qui font comme « Ah, franchement, ben oui, qu'est-ce que tu veux, je suis mal fait. Je suis peut-être un peu vieux jeu, mais quand je donne ma parole, moi, je donne quelque chose d'important. » Puis je l'avais donné, puis là, on revenait là-dessus. Puis oui, j'étais gêné, pour ne pas dire plus, de cette décision-là, puis de ce recul. Heureusement, on est revenu avec un projet. Et puis là, l'intention, c'est de le faire. Puis nous autres, dans la grande région, on n'a jamais abandonné.
Mais en même temps, pour la population, c'est quand même difficile de vous croire quand vous-même, durant la campagne électorale, vous disiez que Christine Fréchette, ce qu'elle proposait, c'était d'abandonner le troisième lien avec son projet. C'est vous-même qui disiez ça.
Puis ce que je vous dis, c'est qu'au terme de la campagne, je me suis assis avec elle. Puis on a vidé l'abcès. Et puis elle m'a dit, regarde, moi là, je suis sincère, je veux aller de l'avant avec un appel d'intérêt, je veux qu'on teste l'intérêt, c'est pour ça que ça s'appelle un appel d'intérêt, on veut tester l'intérêt des consortiums internationaux de venir construire un lien à l'Est avec la participation du privé, et puis pour être bien franc, le payage n'est pas écarté, OK, le payage n'est pas écarté, si ça peut faciliter la réalisation de l'ouvrage, Christine est ouverte. Et puis, je l'étais, moi, déjà, avant. Puis, elle l'avait signifié, de toute façon, pendant la campagne, que c'était une possibilité. Alors, on va de l'avant avec un appel d'intérêt à l'Est, puis on va voir ce que ça va donner. Mais chose certaine, on en a besoin. On en a besoin pour notre développement. Puis, je répète, je radote, je m'assume. Ça n'a pas de bon sens qu'on dépende seulement d'un pont. Puis que si jamais il y avait des travaux d'urgence sur le pont Pierre-Laporte, de faire passer les camions par le pont de Trois-Rivières, c'est ridicule. Ça n'a pas de bon sens. On n'acceptera pas ça. Fait qu'il faut voir un peu plus loin que notre nez. On en a besoin. Fait qu'on avance avec ça.
Immigration, vous aviez dit 18 000. Christine Fréchette, c'est 45 000, des fois 125 000. On est où? Avez-vous eu cette discussion-là avec Mme Fréchette?
Bien, ce qu'elle a réitéré par la suite, c'est qu'elle voulait revenir au PEC.
Ouais.
OK, le programme d'avant, là.
Oui, exactement, ouais. Le programme d'expérience québécoise.
Bravo. Maintenant, que ça allait respecter le seuil de 45 000. Et,
okay.
c'est la position qu'elle a réitérée depuis. Oui, oui, ça me convient.
Il faut faire
l'important,
des compromis.
Ben, puis il faut trouver le juste équilibre.
Mm-hmm. Excellent. Tramway, vous aviez dit on ne coupera pas d'arbres tant qu'il n'y aura pas de financement. Mais là, Christine Fréchette, elle a dit « go for it pour le tramway à l'Hôtel de Ville ». Ouais. Ça accroche un peu, ça?
Moi, ce que j'ai dit, c'est que ça n'avait pas de bon sens que les arbres soient coupés avant que le financement du fédéral soit sécurisé.
Ouais.
Maintenant, j'ai aussi dit que c'était la décision du maire Marchand, puis ça reste la décision du maire Marchand.
Donc, vous vous ralliez à ça aussi?
Ben, la décision du maire Marchand, c'est quoi, là?
Ouais.
C'est quoi?
Ben, c'est de faire le tramway.
Ben, c'est la décision de votre chef aussi.
Il a aussi dit qu'il était sur le bord. Il pensait, lui, qu'on était sur le bord de s'entendre pour le financement du fédéral.
Oui, bon. Mais j'ai de la misère à croire à ça. Mais on devrait avoir Joël Lightbound vendredi ici en studio. Je vais poser la question.
Oui?
Oui, on est rendu.
Il vous a dit qu'il viendrait?
Ben oui. Une annonce pour le port de Québec vendredi matin, apparemment.
Ah! Ben moi, je le rencontre demain. Hein?
Ah oui? Ben parlez-y du financement du tramway.
Je le rencontre demain.
Tu dis qu'ils reviennent me voir, là.
Je le rencontre.
On va en jaser.
Je le rencontre.
Ben, c'est parce que j'avais pris une entente, moi, avec Joël Lightbound. J'avais dit la prochaine fois. Un peu une entente comme j'avais essayé de prendre avec vous, mais les politiciens, des fois, c'est dur de faire prendre des ententes.
Quand même.
J'avais dit à Joël Lightbound, la prochaine fois que vous revenez en studio, vous me confirmez le financement du tramway. Ben je veux que vous me fassiez une annonce.
Oui.
Puis là, il m'a dit qu'il venait vendredi.
Ben là.
Fait que si vous y parlez demain.
Il n'est pas trop tard.
Ben non,
peut-être qu'il va vous l'annoncer.
Dis, Jean-François de Boulevard, attends votre annonce, il y en a quoi? Si je peux, ben si je peux me rendre utile.
Ben là, c'est sûr. C'est sûr. Hein? Toujours prêt à servir.
Toujours prêt à servir pour la patrie, moi aussi, M. Drainville, vous le savez. Oui. Hey, parlons d'économie un peu, là. C'est quand même votre nouveau poste, super ministre de l'économie et également de l'énergie. Moi, j'ai une hantise de la bureaucratie pour nos PME. Ça n'a aucun sens.
On partage.
Ils sont 10-15 employés, puis ils sont obligés de quasiment d'engager deux à temps plein juste pour remplir les papiers du gouvernement. On fait quoi avec ça? Je sais qu'il faut que vous agissiez rapidement. Là. C'est un de vos dossiers prioritaires de dire « je m'hache là-dedans pour arriver en campagne électorale, puis là, enfin, on donne un peu de souffle à nos PME. »
La réponse, c'est oui, on veut alléger. Déjà, moi, j'ai commencé à le faire quand j'étais à l'environnement. Je vous rappelle, l'évaluation environnementale, plus courte, moins de délais, moins de va-et-vient, d'aller-retour entre l'entrepreneur puis les fonctionnaires. Fait que ça, normalement, ce nouveau processus-là va diminuer de moitié le temps pendant lequel on fait le BAP. Fait que ça, c'est un exemple concret de, tu sais, diminuer la bureaucratie, diminuer la réglementation, appelons ça comme ça. C'est un bel exemple, ça. Parce que souvent, les entrepreneurs se plaignent qu'à l'environnement, c'est trop lent. Alors moi, j'aimerais ça pouvoir continuer là-dedans. Je vous rappelle que Samuel Poulain a livré un projet de loi pour diminuer aussi la paperasse puis la bureaucratie. Fait que moi, je veux continuer dans cette voie-là. Alors concrètement, comment on peut livrer des résultats rapidement là, alors que j'ai seulement quelques mois devant moi? J'ai eu une réunion là-dessus un matin, puis dès que je quitte le studio, je m'en vais manger au Saint-Hubert, puis après, oh, j'avais pas le droit de dire ça, je viens de faire une publicité gratuite.
Ben non, c'est ça, je l'avais entendu, de toute façon, vous alliez là.
Puis après, je retourne au bureau pour continuer la réunion, puis un des sujets, c'est justement celui que vous venez de soulever par votre question.
Parfait.
Mais là, vous comprenez, là. Moi, ça fait même pas 24 heures que j'ai été assermenté.
Je le sais, mais là, vous n'aurez pas le choix de bouger vite, là.
Ben, je le sais, inquiète-toi pas. Pourquoi tu penses que...
Vous êtes un gouvernement de job d'été, là, comme on s'amuse à dire, là, parce qu'on s'en va en campagne électorale.
Vous dites ça, vous autres.
Ben là, il vous reste quoi, 6 semaines?
Non, il faut livrer rapidement. Puis je vous le disais à micro fermé, il ne me dérange pas de le répéter, je suis pas...
Allez-y.
Ben, qu'est-ce que tu veux? Avec le temps qu'on a, il va falloir prioriser.
Ouais. Fait qu'on priorise.
Puis là, vous m'avez répondu.
Ça va faire des mécontents.
Prioriser, c'est faire des mécontents.
Bien, tout le temps.
Mais moi, je dis prioriser, c'est choisir.
D'accord.
Puis là, parfois, ça fait des mécontents.
Fait qu'on
n'a pas le choix. On n'a pas le choix.
On va choisir nos PME ou des projets d'industrie étrangère?
Ah, gros préjugé, très favorable aux PME.
Aux PME.
Mais ça ne veut pas dire. Moi, je suis un gars quand même pragmatique. Ça veut pas dire, tu sais, dire non à tout, puis, tu sais, s'enfermer dans une approche qui est dogmatique. Mais je peux vous dire, pour ce qui est des investissements étrangers, notre seuil de tolérance va être moins grand qu'avant.
D'accord.
Tu comprends?
On a appris.
Ben oui. Puis, tu sais, à un moment donné, aussi, il faut favoriser les entreprises d'ici. Puis une des façons de le faire, c'est que quand il arrive des appels d'offres, par exemple, il y a une marge de manœuvre qui nous permet de favoriser les entreprises d'ici quand on va en appel d'offres. Mm-hmm. Tu sais, que ce soit le gouvernement, que ce soit les sociétés d'État comme Hydro-Québec, peu importe. Il y a moyen de donner aux PME d'ici un certain avantage en termes de contenu québécois, d'achat local, appelle ça comme tu voudras.
En effet.
Et donc ça, il faut le favoriser. Pourquoi? Parce qu'on vit actuellement beaucoup d'insécurité par rapport à notre accès au marché américain. Mm-hmm. On a beaucoup d'entreprises. Moi, à Lévis, là, j'ai des entrepreneurs qui exportent aux États-Unis. Là.
Bien, c'est ça.
Puis ils m'ont approché, Jean-François. Puis ça, c'est une vraie... Je vous nommerai pas je donnerai pas le nom des entreprises, mais fiez-vous sur moi. Puis on a jasé, elle et moi, ces entreprises-là. Puis ils m'ont dit, écoute, Bernard, on est inquiet pour notre accès au marché américain, peux-tu nous aider à vendre davantage dans les autres provinces? Et puis, j'ai approché la déléguée générale du Québec à Toronto, puis tout à l'heure, je les ai textés, puis ils m'ont dit, écoute, on vend en Ontario beaucoup plus qu'avant, Puis ça, ça les rassure. Puis ça, ça assure, évidemment, les emplois de cette entreprise-là en particulier. Parce que, dans le fond, tu essaies de compenser le risque de perdre des contrats aux États-Unis par plus de contrats au Canada.
C'est clair.
Ça a du sens.
Ben oui. Hey, parlant du Canada, Terre-Neuve, on va-tu signer cette entente-là, Churchill Falls?
Bien, il faut travailler là-dessus. On attend le rapport du comité d'experts qui a été commandé par le premier ministre de Terre-Neuve. Ça doit arriver d'ici la fin du mois. Là-dessus aussi, j'ai eu des discussions avec Mme Fréchette. C'est un dossier qui est très prioritaire pour elle. Elle a déjà eu, d'ailleurs, des discussions avec le premier ministre terre-neuvien là-dessus. Puis c'est sûr, Jean-François, que si on était capable de signer l'entente finale avec les terre-neuviens avant l'élection, ce serait fantastique. Mm-hmm. Parce que c'est bon pour nous autres, les Québécois, puis c'est bon pour les terre-neuviens, cette affaire-là. Puis le fédéral, je peux vous le dire, parce qu'il y a eu des discussions aussi avec le gouvernement fédéral, mais le gouvernement de Carney, puis Mark Carney, le premier ministre, aimerait beaucoup également que cette entente-là soit finalisée. Parfait.
Je termine l'entrevue. Je vais faire un peu le pont entre l'économie, les ressources naturelles. On en est où avec le gaz de schiste, là? C'était une chicane entre vous et Mme Fréchette, là, dans la dernière campagne électorale. Elle a dit « Hey, on pourrait rouvrir le gaz de schiste. » Vous avez dit « Ouais, il y a sûrement d'autres moyens. » On en est où?
Il va y avoir une discussion au Conseil des ministres là-dessus.
OK.
C'est tout ce que
puis
je
veux. Puis là, ça penche-tu 58-42? C'est-tu là que votre 42 devient plus fort?
Jean-François, vous êtes haïssable un peu.
Peut-être.
Mais vous êtes sympathique, pareil.
Ah, c'est
mais vous savez très bien que je ne peux pas vous dire ce qui se... quand cette discussion aura lieu ou c'est-tu assez plate? Il faudrait que vous vous présentiez aux élections. Puis si vous étiez élu, vous pourriez peut-être devenir membre du Conseil des ministres et à ce moment-là, revenir à votre micro et commencer à déballer tout ce qui s'est dit au Conseil.
Est-ce que vous trouvez que je ferais un bon ministre?
Je suis ouvert à la discussion.
Ah oui?
Ben, pourquoi pas?
Ben, je vais aller manger au Saint-Hubert avec vous.
Ben, venez-vous-en.
Ben non, je peux pas, j'allais une émission de radio.
Ah, c'est donc bien plate.
Ah, c'est plate, hein?
C'est donc bien plate.
Monsieur Drainville.
Monsieur Fortin.
Je termine avec un texto qui est rentré de Steve qui dit « Bravo, Monsieur Drainville, vous êtes inspirant. »
C'est vrai?
Ouais.
Hey, Steve.
Fait que je voulais terminer avec un petit compliment pour vous.
Ben, écoute, merci Steve, je l'apprécie.
Mais par contre, je vous le dis.
Ben là, tu peux finir sur une note positive.
Ah, ça va être super positif. Monsieur Drainville, moi, je vous ai à l'œil. Je vous surveille.
C'est super positif, ça, pour toi. Peut-être.
Moins de bureaucratie pour les PME.
Oui.
Entente signée avec Terre-Neuve.
On travaille là-dessus.
Puis pour moi, dans le peu de temps que vous avez, je vais vous accorder une bonne note.
Wow!
C'est bon, ça?
Donc,
c'est fair, ça.
Tu veux dire, on donne une chance aux coureurs.
C'est ça.
Ouais,
c'est fair, parce qu'il faut bien que le 42% d'appui que vous avez eu serve à quelque chose au niveau économique, là.
Puis je répète, tu sais, parce qu'il y en a qui posent la question. Tu sais, j'ai travaillé, moi, le chantier maritime, là, les investissements là, qu'on fait actuellement, là, tu sais, il y a des gros travaux là, sur le chantier. Là. 500 millions d'investissements. Le contrat qu'on est allé chercher au fédéral pour le brise-glace polaire, dont la construction a commencé.
Là, il y en a d'autres à aller chercher.
Voilà.
Ça va être un sujet de discussion avec M. Lightbound demain, ça.
Absolument.
Hein? Ouais,
hein? Ouais, là.
Comme je suis en train de faire votre agenda politique.
Oui, bien là, j'ai déjà deux points à mon ordre du jour.
C'est pas fait, hein?
C'est assez, là. Je pense que ça serait temps qu'on aille à la pause.
Ben, c'est parce que M. Lightbound peut revenir avec des bonnes nouvelles après ça vendredi à notre antenne.
Es-tu fatiguant?
Il est toujours comme ça.
Toujours comme ça, pauvre vous autres.
Je vous laisse là-dessus.
Endurer un gars de même.
Oui, c'est ça.
As-tu du bon sens?
Mais je vous laisse là-dessus. Je vais m'assister avec un autre Drainville dans quelques instants.
Un autre Drainville?
Ben oui, c'est votre fils.
Pauvre fou.
Lambert Drainville.
Quelle mauvaise journée vous avez.
S'en vient faire sa chronique. Dans le fond, ça n'a pas de sens, ma vie.
Mon c'est Dieu. C'est l'enfer. La vie.
C'est ça.
C'est quoi? L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les Drainville.
Lambert va venir nous parler de la loi P96, cette clause dérogatoire où Charles Milliard a dit oui, a dit non, il a redit oui.
Ah oui.
C'est plus trop, hein?
Non, c'est pas
trop. Il danse.
Ouais, ouais.
Ben, il danse comme la CAQ avec le troisième lien.
Les libéraux, ils ont de la misère avec tout ce qui est valeurs québécoises et tout ça. Et ça a toujours été compliqué.
Ouais.
Fait que tu vois c'est que ça, plus ça change, plus c'est pareil.
Avez-vous perdu des nationalistes au PQ, là? Il y en a-tu qui sont partis?
Pas à ma connaissance.
Paul Saint-Pierre a ouvert les bras?
Ben, il n'est pas le seul à avoir les bras.
Il va-tu reculer sur le référendum avec 39% d'un sondage s'il ne fait pas de référendum?
Ben, il a dit qu'il allait en faire un, là. Il a dit, moi, je recule pas là-dessus. Fait que ça a le mérite d'être clair.
Bon.
Hum?
Parfait, ça.
Bon.
Hey, je vous laisse aller manger.
C'est fini, là?
Ah oui.
Ah, OK.
Ben, on pourrait continuer, mais j'ai votre fils qui attend.
Ouais, c'est ça. Bon, mais vous direz bonjour à mon gars.
OK.
Salut.
Salut. Merci. Bernard Drainville, super ministre de l'Économie et de l'Énergie. Merci, M. Drainville, votre passage en studio. Toujours un plaisir. Merci pour vos réponses franches. Circulation, Mathias.
Oui, juste vous rappeler sur Laurentienne en direction sud, actuellement dans le secteur du boulevard Jean-Talon. Il y a présentement 2 voies sur 3 qui sont fermées. Donc ça crée plusieurs problèmes. La raison des 2 voies fermées, c'est bien sûr des travaux qui ont lieu aujourd'hui seulement, là, je tiens à le préciser. Donc, ça crée un fort ralentissement dans le secteur.
On va agacer un peu M. Drainville, qui doit nous entendre en passant dans le hall d'accueil. Éric, qui écrit quand même sympathique, le bonhomme. Lambert Drainville s'en vient sur nos ondes dans quelques instants pour sa chronique hebdomadaire.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase. Le segment que personne veut manquer le matin. Le pit stop de 7h50.
En ligne?
Répète donc ça, au revoir.
Offrez-vous la tranquillité d'esprit. Découvrez comment TELUS peut vous protéger des menaces à domicile et en ligne à telus.com/sécurité. Des conditions s'appliquent.
Durant le Volksfest de Volkswagen, profitez d'offres exceptionnelles à 0% sur tous nos modèles.
Fait que le Taos, il est à
0%.
Puis le Tiguan,
0%.
Puis la Golf GTI,
ben, sont toutes à...
Ah! Ben là, je t'ai eu, par exemple!
0% aussi, Pierre-Luc. Qu'est-ce que tu comprends pas dans tous nos modèles?
Non, non, je comprends. C'est juste que c'est vraiment des bonnes offres pour des voitures très le fun à conduire.
Durant le Volksfest, profitez de financement à 0% jusqu'à 60 mois sur le Taos et jusqu'à 24 mois sur tous les autres modèles. Faites vite, l'offre prend fin le 30 avril 2026. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Volkswagen.
La zone spectacle extérieur Le Champ du Festival Western de Saint-Tite revient en 2026 sur la scène SiriusXM. Dès le 11 septembre, voyez Max McNone, Matt Lang, Cameron Whitcombe et Blake Whitton. Billets au fwst.ca.
Pourquoi BDC pour mon entreprise? Je sens que c'est le moment, là. Ça bouge, l'économie change. On me parle d'automatisation, d'intelligence artificielle, puis moi je me dis, faut que je me lance. J'ai besoin d'un prêt, mais aussi d'un vrai coup de main, quelqu'un qui m'accompagne pour vrai, puis qui va m'aider pour les prochaines étapes. Maintenant, là, pas plus tard.
Préparez la suite avec BDC. Obtenez du financement et des conseils adaptés à vos projets. Découvrez comment à bdc.ca/financement. BDC, financement, conseil, savoir-faire.
Moreau PRS cherche à combler plusieurs postes pour ses succursales de Québec et Lévis. On recrute des représentants en vente, des installateurs et du personnel d'entrepôt. Envie de joindre une équipe solide et le vent dans les voiles? Postulez dès maintenant chez Moreau PRS. Visitez moreauprs.com. Découvrez le Grand Crousty chez Benet et compagnie. Un nouveau burger généreux garni d'une galette de poulet frit, de rondelles d'oignon, de bacon, de laitue, de fromage en grains, de cornichons et d'une sauce ranch épicée. Avez-vous la mâchoire qu'il faut? Disponible chez Benet et compagnie.
Saviez-vous que le Mitsubishi Outlander PHEV est l'hybride rechargeable le plus vendu au pays? En 2026, l'Outlander PHEV domine la compétition grâce à la plus grosse batterie de sa catégorie, offrant plus d'autonomie électrique pour vos déplacements et une puissance accrue. C'est le seul à vous offrir 7 places de série, la recharge rapide et la meilleure garantie de 10 ans ou 160 000 km. Profitez des subventions gouvernementales et de nos unités disponibles immédiatement. L'avenir est branché. Passez chez Sainte-Foy Mitsubishi ou Québec Mitsubishi.
La météo présentée par Toiture 4 saisons. Tu te cherches un emploi trippant? Viens travailler avec la meilleure équipe en ville. Toiture4S.com.
Jusqu'à 14h.
Émission en jase de ce mercredi 22 avril. 13h34 minutes, ça sera réécouté sur le blvd.fm après l'émission Dépose l'entrevue avec Bernard Drainville, le super ministre de l'économie qui est venu nous voir. On a eu bien du plaisir, on a regardé les contradictions entre lui et Mme Fréchette et on l'a fait jaser sur son nouveau poste. Ça va être réécouté sur blvd.fm. D'ailleurs, 418-971-1021, vous êtes plusieurs à avoir apprécié l'entrevue et apprécié la transparence de Bernard Drainville. Continuez à nous texter, s'il vous plaît, pour nous écouter. BLVD.fm, c'est notre web radio, et BLVD 102.1, l'application disponible sur App Store et Google Play Store. Je vous rappelle, 11 degrés généralement nuageux pour aujourd'hui, 8 degrés alternance de soleil et nuages pour jeudi, même principe pour vendredi. Mathias, les 3 principales nouvelles dans l'actualité avant de passer à notre chroniqueur hebdomadaire, Lambert Drainville.
Oui, c'était rapporté dans le Soleil il y a de ça une heure environ. Un homme de 26 ans qui est accusé d'activité terroriste aujourd'hui, justement. Il a comparu cet avant-midi. Jeffrey Roussel, qui est associé au groupe 764 et Montané 984 et 1984, qui sont deux groupes deux entités terroristes en vertu du code criminel, notamment pour le 764 depuis la fin de l'année 2025. C'est quatre chefs d'accusation dont l'homme fait face actuellement pour des crimes commis entre février et avril 2026. L'homme qui est présentement détenu, étant donné que la procureure générale du Canada s'est opposée à sa remise en liberté, il reviendra devant la cour lundi. L'état de santé d'un jeune cycliste inquiète actuellement, lui qui a été malheureusement heurté par une voiture ce matin dans le secteur de Sainte-Foy. Ça, c'est un incident qui s'est produit vers 9 heures entre la route de l'église et la rue Le Noblet. Malheureusement, l'adolescent, qui a environ 15 ans, a été percuté. On n'a pas nécessairement tous les détails. Selon ce qu'on a en ce moment, c'est que l'enfant n'aurait possiblement pas respecté la priorité de passage et la signalisation, selon les informations du Journal de Québec. Présentement, on ne sait pas nécessairement si on craint pour sa vie ou pas, mais on sait que les blessures sont plutôt graves. L'automobiliste, quant à lui, n'a pas été blessé. Je vous parle également de travaux. Travaux dans le secteur de Saint-Roch à venir cet été, reliés à Tramcité. On a eu un peu plus de détails concernant notamment la destruction de la passerelle Adrien-Pouillotte, donc celle présente au coin Laurentienne et des embarcations dans le secteur de Saint-Roch. En gros, on va démolir cette passerelle-là pour les travaux Tramcité. Ça va se dérouler au cours de l'été pour la démolition à un moment ou à un autre durant la fin de semaine. On ne va pas avoir le choix de fermer l'autoroute Laurentienne.
Exactement. Donc, ça va être à suivre pour les dates de cette fermeture de l'autoroute Laurentienne dans les deux directions. Lambert Drainville est avec nous pour sa chronique hebdomadaire du mercredi. Lambert, comment vas-tu?
Salut les boys, j'avais hâte de vous parler.
Ah, moi aussi j'avais très hâte de te parler parce que Lambert, t'es un gars d'insider, tu parles à beaucoup de monde, t'as travaillé à l'interne et en politique. Et là, il y a un remaniement ministériel, on sait que ça brasse toujours, il y en a des pas contents puis il y en a des contents, mais ça fait aussi beaucoup de grenouillage dans la stratosphère juste en dessous. Les chefs de cabinet, les attachés de presse, qu'est-ce qui se passe dans cette stratosphère-là? Il y en a-tu plusieurs qui disent « Ouais! » Finalement, l'alignement de Christine Fréchette, ça fait pas mon bonheur, je m'en vais.
Bien, certainement qu'il y a des gens qui sont en réflexion. Déjà, on apprenait ce matin que, comme tu l'as dit, sept directeurs de cabinet là, qui étaient là sous M. Legault, qui ont annoncé pratiquement simultanément qu'ils quittaient. C'était pas concerté, là, je tiens à dire. Là. Ils se sont pas appelés, ça a juste amené de même. Là. Je pense que c'est des gens que ça fait longtemps qu'ils sont là. Et qui ont beaucoup donné. Et là, je pense qu'il n'avait peut-être le cœur n'était plus là. Mais quand même, non les moindres, là, on parle de directeur de cabinet au transport, éducation, environnement, infrastructure, services sociaux, aînés. C'est quand même des.
Oui, puis éducation, je te dirais que c'est surprenant parce que c'est la même ministre qui est restée là, Sonia Lebel.
Ben c'est ça. Il y a des gens qui peut-être sont fatigués et il y en a peut-être aussi qui ne se voient pas là, travailler sous la nouvelle gouvernance. J'imagine que c'est du cas par cas et qu'il n'y a pas une raison pour tous et chacun. Mais il y a quand même un effritement aussi. Là. Après 8 années pratiquement à gouverner, disons que les employés en cabinet, c'est plus de la même qualité que ce qu'ils ont déjà eu. Puis ça, c'est quelque chose dont on n'entend jamais parler, mais il y a beaucoup, beaucoup de ressources très, très importantes qui ont quitté dans les dernières années et qui, visiblement, continuent de quitter. La question maintenant, c'est les élus. On a vu Shirley Dorismond, je pense, visiblement, avait des attentes au niveau du Conseil des ministres. Elle n'était pas la seule. On peut penser aussi à notre cher ami Gilles Bélanger. Qui a été, écoute, le plus grand porte-drapeau de Christine Fréchette lors de la course à la chefferie et qui se retrouve finalement exclu du Conseil des ministres.
En même temps, la plus grosse épine dans le pied de Christine Fréchette aussi.
Ouais, ben c'est ça, hein? Comme quoi, quand tu craches dans les airs, Jeff, des fois, ça te retombe sur le chou.
C'est ça.
C'est ça. Il est un petit peu loose cannon quand il est sorti sur le dossier santé numérique il y a quelques mois de cela, de ce que j'en comprends, il n'était pas attaché avec le bureau du premier ministre. Sa déclaration comme quoi si jamais Bernard Drainville gagnait, il allait quitter n'était pas attaché non plus avec Mme Fréchette.
Dans un concept où on refait l'unité du parti, Mme Fréchette et M. Drainville décident de travailler ensemble. Tu peux pas vraiment avoir un Gilles Bélanger qui est assis à côté d'eux ou entre les deux.
Ben, je pense que c'est effectivement une sage décision. Et sur, écoute, le Conseil des ministres, plus largement, c'est toujours compliqué là, d'essayer de faire du neuf avec du vieux. Là. C'est l'expression tendance là, de ces jours-ci. Là. Mais c'est sûr que je... Tu sais, généralement, écoute, on verra, là, on jugera l'arbre à ses fruits. Mais c'est sûr que ça n'envoie pas un message de renouveau. Là. On s'entend là-dessus, Jeff, là, quand tu regardes le retour d'essentiellement tous les nouveaux ministres. Je pense qu'il y aurait eu moyen quand même de venir jouer. Moi, Éric Girard, je l'apprécie beaucoup. C'est une personne que j'ai côtoyée, mais je pense que c'est suivant là, la situation budgétaire dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, les déficits historiques qui se sont quand même enchaînés, la décote, je pense que ça aurait été un pion, avec un seul geste de changer le ministre des Finances. Ça aurait pu justement envoyer un message de plus grand renouveau que ce qu'il y a maintenant. Puis mine de rien aussi, elle avait promis qu'elle diminuerait la taille du Conseil des ministres, qui est finalement pas arrivé. Puis bien honnêtement, ça aussi, il y aurait eu moyen. Là, t'sais, Chantal ben oui. Rouleau. Chantal Rouleau aussi, que tu sais, du moment que tu nommes Karine Boivin-Roy, là, qui est la nouvelle ministre. Elle est à l'habitation,
ouais.
et c'est l'autre élu, dans le fond, avec Mme Rouleau qui est à Montréal. Mme Rouleau, historiquement, on l'a souvent vu au Conseil des ministres en raison du fait justement qu'elle est une des deux seules élues à Montréal. Et là, tu nommes l'autre. Fait qu'est-ce que c'était nécessaire de garder Mme Rouleau? Est-ce que c'était nécessaire de garder Éric Girard au Lac-Saint-Jean? Là? Puis Daniel Bernard, qui a été nommé là, de Rouyn-Noranda, mais qui habite plus là, qui habite en Estrie. Du moment que tu nommes un ministre responsable des régions, en Mathieu Lévesque, est-ce que tu as besoin de garder Éric Girard du Lac-Saint-Jean parce qu'il représente le Lac-Saint-Jean puis le Saguenay?
Assurément pas, tu as entièrement raison.
Fait qu'il y aurait eu moyen de
vraiment
envoyer un plus gros vent de renouveau, un message de renouveau, si tu veux mon avis, et il y aurait eu moyen de diminuer la taille du Conseil des ministres. Mais encore une fois, on revient au fait que tu as des gens qui avaient des attentes. Et moi, je pense que ça a pesé lourd dans la balance. Et évidemment, ceux dont on parlait qui sont présentement en réflexion, ben, ce sont ceux qui n'ont pas eu l'appel tant attendu. Et là, la question pour les semaines à venir, ça va être, Jeff, est-ce que la colle va réussir à tenir? On va le savoir bien assez vite.
Exactement. Parlant de vent de renouveau, on n'en a pas trop non plus du côté du Parti libéral du Québec. Je te fais entendre le début de ta capsule que j'ai trouvée excellente, Lambert Drainville.
Ceci est un message aux députés du Parti libéral du Québec.
Êtes-vous tanné de réchauffer les banquettes de l'opposition officielle depuis maintenant 8 ans?
Parce que des fois, je trouve que ça paraît pas. On en jase.
Justement, on est dans l'émission On en jase, donc on voilà. En jase, Lambert. Sont pas tannés, c'est une job à vie qu'ils ont.
Écoute, tu sais, j'écrivais mon script pour cette capsule-là, puis j'étais comme, c'est tellement politique 101, Jeff, là. À un moment donné, là, c'est le chef lui-même qui me l'a dit quand je me suis entretenu avec lui, Charles Milliard.
Ben, je sais, j'ai plus tard, tu le mets dans la capsule, là, justement. Ben, là, c'est si vous voulez la réécouter sur les médias autant... sociaux de Lambert Drainville.
Oui, merci de me faire de la pub, j'apprécie.
Ça fait plaisir.
Mais c'est ça, j'ai demandé comment ça se fait que vous avez tellement de difficultés à percoler chez l'électorat francophone qui demeure, Jeff, parce que ça représente 80% de la population au Québec,
ben oui.
Le plus gros déterminant de si tu vas gagner une élection ou pas. Et il m'a répondu, ben ça doit être parce qu'on n'a pas répondu aux attentes sur le français, la laïcité, les enjeux identitaires qui touchent le cœur des francophones. Et donc, ça vient de sa bouche à lui. Et non seulement ça, mais il poursuit en disant, j'essaie de mon côté d'être clair sur ces questions-là, et j'ai l'impression que je le suis. Bien, force est d'admettre que si on regarde les 7 derniers jours, les 7-8 derniers jours, ça n'a pas été aussi clair que ce qu'il aurait souhaité, visiblement.
C'est le fameux double discours, Lambert, en français et en anglais, parce que dans ta capsule, tu le fais ressortir dans son entrevue le samedi matin en anglais. Non, j'ai pas dit que j'étais pour garder la clause dérogatoire. Je suis pour apporter des changements qui ne nous amèneront pas à avoir besoin de la clause dérogatoire. Une chose en français, une chose en anglais.
Exact. Puis c'est subtil, mais c'est que la marge de manœuvre de ce parti-là, elle est de zéro. Ils n'ont pas de corde. Ils n'ont pas de corde. La raison pour laquelle ça fait les Québécois les ont sortis puis ils sont sur le banc de touche depuis ce moment-là, c'est que les Québécois ne leur font pas confiance sur les enjeux de français et de culture et de laïcité. Et donc, il n'a pas de marge de manœuvre pour tergiverser et être pas clair. Et là, quand tu dis des affaires qui ne sont pas exactement la même chose en français, en anglais, clairement, tu as des députés du West Island, des députés ici à Montréal qui ont fait savoir leur mécontentement sur la nouvelle position. On dirait que je m'attendais... La première position, pour moi, elle était la bonne. Son seul enjeu, c'est qu'il s'était pas bien attaché avec son caucus, il avait pas parlé à sa gang avant, fait que c'était un peu sorti d'un chapeau, puis là, ben, ils ont été bien surpris de ça. Mais là, le Parti libéral, ils en ont plus, là. Ils n'auront pas d'autre chance de faire bonne impression, puis de gagner au-delà de clause dérogatoire, pas clause dérogatoire, loi 96 ou non, loi 21 ou non, c'est plus en haut lieu que ça, là. Est-ce que les Québécois peuvent faire confiance au Parti libéral s'ils votent pour eux aux prochaines élections pour que ce parti-là se lève et défende notre langue, notre culture, notre identité pour les quatre prochaines années? Et à ce niveau-là, s'ils veulent que les gens leur donnent un vote de confiance, ils n'ont plus de chance, là. Ils doivent être clairs, catégoriques, puis ils doivent aller plus loin aussi que les positions défendues par le Parti libéral dans les dernières années.
Mais en même temps, est-ce qu'il pourrait avoir une stratégie là de dire « on rend le message tellement pas clair que des personnes qui veulent nous supporter, entre guillemets, ben, vont comprendre ce qu'ils veulent comprendre? »
C'est une excellente question, Mathias. J'espère que non. Ce sera ma réponse. J'espère que non, parce que, justement... tu n'en auras pas de chance. Et les Québécois, alors, je l'ai déjà dit sur vos ondes, ont un bullshitomètre très, très, très développé, très raffiné. Quand ils sentent que c'est pas clair, que c'est des messages contradictoires d'un côté et de l'autre, ce ne sera pas long qu'ils vont sentir un petit peu la bullshit, si tu me permets l'expression, et ça peut se retourner contre toi. Très fortement, là. Puis on l'a vu avec la CAQ d'ailleurs, là. Quand on sentait là, que ça gouvernait par sondage, puis ça changeait d'idée parce qu'ils pensaient que finalement ils gagneraient des points politiques en changeant leur chemise de bord, plus souvent qu'autrement, ça leur a pété dans le visage. Alors, si c'est ça leur calcul, c'est un énorme, énorme risque qu'ils prennent, et je pense pas que Charles Milliard, il me donne l'impression d'être un gars foncièrement intelligent. Je ne pense pas qu'il veut aller là. Je pense qu'il va apprendre de ça. Et je pense qu'il est grand temps qu'il rentre au caucus du Parti libéral, qu'il regarde ses députés dans les yeux, particulièrement les députés qui représentent des circonscriptions essentiellement anglophones, et qu'il leur dise « Les amis, something's gotta give. Si vous voulez arrêter de réchauffer les banquettes de l'opposition, si vous voulez potentiellement avoir une shot à un poste de ministre et être au gouvernement, eh bien, à un moment donné, il faut comprendre que les Québécois ont besoin d'être rassuré sur ces questions-là, et le statu quo ou les tergiversations, ça le fera pas, là. Ça le fera
clairement
pas.
Lambert Drainville, toujours un bonheur de te parler. On te parle les mercredis et vendredis. Donc, on se reparle vendredi.
On se reparle vendredi.
Salut, mon chum. Merci beaucoup. Boys. Lambert Drainville qui est avec nous deux fois par semaine. Un fier partisan également du CH. Alors, on va assurément parler un petit peu du match avec lui vendredi. Dans un instant, Boulevard 101, l'émission N'en jase. On va terminer, Matt, tant qu'à être moi puis toi, avec nos prédictions pour les matchs de ce soir de la Ligue nationale. C'est bon, ça?
C'est parfait.
Excellent, on fait ça dans un instant. On en jase. Évidemment, comme d'habitude, après On en jase, c'est le retour de Gravel qui suit avec Denis Audrey et Véro. Si vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez aller réécouter l'entrevue avec Olivier Primeau hier qui s'est fait dans le retour. Mathias, on a tout à l'heure avec Alex Laramé fait notre prédiction sur le match Flyers-Pingouins. T'es allé avec les Pingouins qui reviendraient dans la série. Je suis allé avec les Flyers qui écarteraient les Pingouins 3-0. Maintenant, Stars de Dallas, Wild du Minnesota, égalité 1-1 dans la série. Est-ce le Wild ou les Stars qui vont prendre l'avantage?
Minnesota reviennent à la maison. Ils ont perdu le dernier match. Par contre, j'aime beaucoup le jeu des joueurs comme Quinn Hughes, que j'ai trouvé excellent dans les deux premiers matchs. Kaprizov aussi. J'y vais avec le Wild pour ce soir à la maison. Je pense qu'ils vont sortir fort.
Très d'accord avec toi. Moi aussi, je vais avec le Wild. J'ai l'impression que l'énergie de la foule va leur donner ce qu'il faut pour prendre les devants dans cette série-là. Ducks Oilers, on l'a dit, pas de points pour Connor McDavid, le dernier match. C'était la première victoire des Oilers sans que Connor McDavid fasse de points. J'y vais avec les Oilers. Je pense que McDavid va avoir un bon match puis que les Oilers vont prendre les devants 2-0.
J'y vais pour les Oilers aussi. Là, je pense que le premier match a envoyé un message clair aux Ducks que si les Oilers, Connor McDavid est capable de produire réellement puis que les Ducks sont juste capables de scorer 3 buts dans un match face aux Oilers, Ça sent pas bon pour les Ducks, là, honnêtement.
Non. En effet, en vous rappelant que à Boulevard 102.1 sur blvd.fm, vous pouvez aller réécouter nos meilleurs moments, notamment l'entrevue qu'on a faite avec Bernard Drainville. Ça va se retrouver aussi sur notre page YouTube. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Merci d'être à l'antenne de Boulevard 102.1. Merci d'écouter On en jase. On se reparle demain. Salut Mathias.
Bonne journée.